Géné sur Europe 1.
16h-18h30, Laurent Ruquier.
Jusqu'à 18h30 aujourd'hui, quel plaisir d'avoir autour de cette table Isabelle Motreau. Philippe Alfonsi. Fabrice Eboué.
Quel bonheur.
Jérémy Michalak. Titoff. Et Olivier de Kersauzon.
J'adore.
Oh, mais quelle pêche.
Quelle pêche, hein.
Quelle grande forme.
Ah, mais ouais. Moi, j'ai la forme. Moi, le vendredi, ça me met de bonne humeur.
Surtout à vendredi 13, quand même.
Ah, mais j'avais oublié que nous étions à vendredi 13.
Non seulement c'est le vendredi 13, mais c'est la journée de la gentillesse.
Ah, bah, c'est vrai. C'est vrai que c'est la journée de la gentillesse.
Fabrice, ça me semble que vous êtes ravissant.
Oh, merci, Olivier.
Mais, non, moi, je vais.
Ça dure une journée, j'en profite. Non,
c'est pas la journée du faux cul, hein, c'est la journée de la gentillesse.
Si vous pouviez plutôt l'engueuler de ma part, Isabelle Motreau, parce qu'elle vient de me griller deux questions d'un coup. Le vendredi 13 la journée de la gentillesse.
Oh ouais, c'est bien.
Ah non, franchement, ah non. Non, parce que j'avais une question sur le vendredi 13, j'avais une question sur la journée de la gentillesse.
Ah, mais ça montre quand même, ça n'a pas été vraiment préparé sérieusement, quoi, parce que c'est pour ça que vous êtes en forme, vous n'avez rien foutu ce matin.
Dites, j'ai enregistré mon émission, on n'est pas couché jusqu'à pas d'heure, comme d'habitude, je reviens ici frais comme un gardon, j'ai bossé les questions comme jamais j'ai pu le faire, d'ailleurs vous allez voir, je vais vous piéger sur plus d'une question, monsieur le capitaine. Ah,
me piéger sur vos questions, c'est vachement fastoche.
Ah oui.
Je n'ai rien lu, je ne veux rien savoir et je dors. Aujourd'hui, c'est la journée de la gentillesse avec les capitaines. Faut leur parler tendrement.
Ah, c'est vrai.
Leur servir à boire, faire des pauses tous les 5 minutes pour qu'on aille cloper. C'est ça la vraie journée de la gentillesse. Pas votre système de torsionnaire là, donc, à l'intérieur de ce studio dans lequel on ne mettrait pas
capitaine,
un être vivant
capitaine,
normal.
Vous auriez mieux fait hier de me reprendre, si j'ose m'exprimer ainsi, quand j'ai dit que le ministre de la Défense s'appelait Thierry Morin. Bien sûr, personne n'a repris autour de la table. Il s'agit d'Hervé Morin.
Parce que personne n'écoute ce que vous dites.
Parce que tout le monde dormait hier.
Peut-être aussi que...
Vous avez confondu avec Thierry, qui était le prénom masculin de la jeune fille qui était un homme et
oui,
qui est devenue
voilà,
une femme.
Mais c'est ça, c'est peut-être que le ministre de la Défense a changé de prénom lui aussi.
Oui, tout simplement.
Voilà, il a changé de sexe. Au lieu de s'appeler Thierry, il s'appelle Hervé. Bon, voilà, pourquoi pas. J'ai des petites blagues pour Fabrice Eboué. C'est Chantal qui m'envoie cette blague. C'est une petite fille qui dit à sa maman en rentrant de l'école « Maman, maman, tu sais, les garçons me demandent toujours de faire la roue pendant la récréation. » Et sa maman lui dit « Mais les garçons, ma chérie, demandent ça pour voir ta petite culotte. » Et la petite fille répond « Ah mais je sais bien, c'est pour ça que je la mets toujours dans mon cartable. » Bon, bah, elle est mignonne, non ?
Elle est un peu vieille. Hein,
ah ouais, ah ouais. D'ici, on voit pas. J'en ai une pire, si vous voulez.
Non,
ah
non,
si,
non.
Si,
bah,
pour,
si, si.
Pour Isabelle Motreau, c'est l'histoire.
Non.
Une petite vieille qui est à la campagne sur son lit, gravement malade. Le médecin de la ville vient la voir et l'ausculte. Le papy attend dans le séjour. Le médecin sort après de très longues minutes et lui dit « Votre femme, monsieur, est dans un état comateux. » Le papy, qui n'a pas bien compris, rentre dans la chambre de sa femme. La mamie lui dit « Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit, le docteur, à mon sujet ?»« Oh, je sais pas trop. Il m'a dit que t'étais dans un état comateux. » Et la grand-mère dit « Oh, nom de Dieu, bah, je suis pas prêt de me lever, alors.
» Non mais attends,
bon, si, c'est là.
Ah, si.
Bon.
Ah non, moi j'aime bien.
Attends. Ouais. Ça, j'attends que ce soit plus rigole, la journée de la gentillesse.
J'ai Elvio aussi qui m'envoie, j'essaye une dernière histoire parce que c'est vrai que pour l'instant elles étaient moyennes. Hein. Je dois reconnaître moi-même.
Ah,
c'est un homme qui est au cinéma, il se trompe, au lieu d'aller aux toilettes pour homme, il va aux toilettes pour femme. Il commence à pisser et il y a une femme derrière lui qui hurle à plusieurs reprises. Mais ici c'est chez les dames, ici c'est chez les dames, ici c'est chez les dames. Alors l'homme prend son temps, il continue à pisser quand même, puis après avoir fini, il se retourne, son zizi à la main, et il lui dit « Et ça, c'est pas pour les dames.
» Alors là, c'est quand même la pire. Hein.
C'est la journée de la finesse.
C'est bien garder la meilleure pour la fin.
Non, celle-là, moi, je la trouve... Celle-là, tu sais pourquoi je l'ai trouvée pas mal, celle-là ?
Non.
Parce que je me suis dit, je pourrais l'utiliser, parce que ça nous arrive tous.
Ouais.
Ah non, t'es le seul en toilette d'âme ici, Laurent. Enfin,
oh non, on se trompe toujours. Non, vous trompez jamais, vous ? Oh bon, moi, je croyais, moi, alors.
Non, je crois qu'il n'y avait même pas une seule raison d'utiliser cette blague, je suis désolée.
Tu vois que c'est la journée de la gentillesse, c'est Isabelle qui est la plus méchante depuis le début, elle dit que toutes tes blagues sont merdiques, etc.
Méchante.
Nous, on dit qu'elles sont bonnes.
Faut dire que j'ai pas grand chose de mieux à vous proposer.
Ah, voilà.
Si quand même là, par exemple, quelqu'un qui est allé voir votre spectacle, Fabrice Eboué, bonjour.
C'est gentil, ça.
Je suis un psychopathe du premier rang que vous avez réanimé en disant Colette, je vais te tuer. J'imagine que ça fait partie de votre spectacle.
Ouais,
je vous prie de croire que j'étais en train de passer une excellente soirée au théâtre Le Temple jusqu'à ce que vous m'interpelliez. Cela dit, ce n'est pas tous les jours que 200 personnes se foutent de ma gueule. C'est-à-dire que vous prenez à partie le public en plus.
Non, mais c'est vrai que j'avais un spectateur très gênant en premier rang qui ne riait à rien depuis le début du spectacle. Et sauf quand j'ai dit Colette, je vais te tuer, il a eu un fou rire, je sais pas pourquoi, donc j'ai commencé à lui parler. Donc, voilà.
Merci en tout cas pour ce spectacle. Du coup, j'ai résilié ma réservation pour la Tunisie au printemps en espérant vous revoir bientôt sur scène. J'imagine que c'est parce que vous vous moquez aussi de la Tunisie dans
le
spectacle.
C'est vrai que pour les gens qui écoutent, c'est passionnant d'entendre toutes les références du spectacle sans savoir de quoi il s'agit.
Post-scriptum, bah dites donc alors, engueulez-moi si je fais de la pub.
Elle est bien la journée de la gentillesse. Ah bah,
franchement, je suis en train, là, gentiment, de faire la promo de son spectacle et je me fais engueuler. Vous rendez compte, un peu l'ingratitude. Mais je crois que j'ai élevé des monstres dans cette émission. Vous voulez que je vous dise, j'ai élevé des monstres.
Ingratitude.
Attends un peu qu'ils grandissent, tu vas voir.
Ça me bouleverse, moi.
J'ai un post-scriptum qui dit quand même, pouvez-vous demander à mon conjoint d'arrêter de me hurler, Colette, je vais te tuer dans les oreilles à tout bout de champ. Bon, bah voilà. Ça l'a fait rire.
Bien sûr.
Voilà. Ça me fait rire parce que j'imagine la vie de ce mec depuis qu'il est allé voir le spectacle de Fabrice. C'est-à-dire que son copain s'est rendu compte que la phrase magique « Colette, je vais te tuer » le faisait hurler de rire. Ça fait des années qu'il essaye de le faire sourire et donc depuis, il va lui crier ça à tout bout de champ. Je trouve ça assez drôle.
Ouais, peut-être que j'essaye, moi. « Colette, je vais te tuer ». On se retrouve après la pub.
16h-18h30 sur Europe 1. Avec Laurent Ruquier.
On va se gêner.
Il est 16h11 sur Europe 1 et vous êtes bien en notre compagnie, c'est normal. Nous sommes toujours avec Laurent Ruquier, avec ses complices du jour en ce vendredi 13 et avec surtout les auditeurs puisqu'on va jouer avec la tue.
Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur.
Bonjour Karine, bonjour Alexandre.
Bonjour.
Vous allez peut-être gagner l'un et l'autre un appareil photo numérique Fujifilm, le F70 de la gamme Finepix. Je dis bien Finepix parce que ça fait quand même une semaine que je dis Finepix et il n'y a personne qui me reprend ici. Il fallait me le dire que c'était de l'anglais. Moi je pensais que c'était...
Tu pensais que c'était quoi
ah
comme
je sais
langue.
Pas, Finepix, je disais, alors que c'est Finepix. Ah. Le F70EXR sera peut-être en votre possession, Karine, Alexandre, si vous répondez à la première question du jour. Mais d'abord, évidemment, nous nous interrogeons tous ici autour de cette table. Chère Karine, à la Couture Bousset dans l'Eure, que faites-vous?
La Couture Bousset, c'est là où j'habite.
Oui, ça je me doute.
Mais moi, je travaille à Évreux.
Ah, très bien.
Et je suis employée de bureau.
Employée de bureau.
Voilà.
Karine, vous allez être opposée à Alexandre, qui lui nous appelle depuis Saint-Grégoire, capitale de l'Ille-et-Vilaine.
Non, c'est à côté de Rennes, la capitale de l'Ille-et-Vilaine.
Ouais, c'est pareil.
Et donc, moi, je suis cadre bancaire.
Oui, mais je vous demandais pas, vous.
Ah, oui. Je s'en fous.
Une petite voix toute fluette. Hein,
Une
petite voix toute mignonne.
Ah bah, il est cadre bancaire, il fait attention.
Tu es jeune ou tu es gay?
Je suis jeune.
D'accord.
Mais je vous ai déjà vu en spectacle, Fabrice, je suis habitué à votre humour. C'est corrigé.
Et quand tu dis, Colette, je vais te tuer, tu t'es marré ou pas?
Non, je suis pas sensible encore à ça. Je suis pas assez psychopathe encore.
Vous l'avez vu en tournée?
Non, je l'ai vu à Paris, au Comedy Club.
Vous êtes allé au Comedy Club. Maintenant, il faut changer de lieu, il faut aller au... Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs au Comedy Club maintenant que vous n'y êtes plus alors?
Ils ont fermé,
c'est vrai? Ah ouais, ils ont fermé. Bon alors, un cadre bancaire contre une motoculteuse, je sais pas, on s'en fout. Karine, Alexandre, voici la question du jour. Attention, c'est parti pour un appareil photo Finepix. Qu'est-ce qui a commencé il y a 9 ans à Singapour et qu'on connaît seulement aujourd'hui?
Une autre fille de Jacques Chirac?
C'est avec l'histoire d'Obama?
L'histoire d'Obama, non.
Non.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Une autre fille de Jacques Chirac.
Comment ça, une autre fille de Jacques Chirac?
Celle qui a plein de petites asiatiques à travers le monde.
Non.
Un truc dont on aurait déjà parlé en début d'émission, maladroitement.
Allez-y, par exemple. Allez-y.
C'est la journée de la gentillesse.
La fête de la gentillesse, c'est Alexandre qui l'a dit avant vous. Bravo Alexandre.
Bravo. Bien un peu aidé, hein.
Gagner effectivement la journée de la gentillesse est née il y a 9 ans à Singapour. Vous voyez le temps que ça a mis pour venir chez nous, la gentillesse. À Singapour, ils étaient déjà gentils depuis 9 ans.
Très sympa.
Et nous, on était là comme des cons à être méchants. On attendait que ça arrive chez nous. Et c'est aujourd'hui la journée. Et je le vois bien dans l'œil de chacun autour de cette table qu'on va être beaucoup plus gentils que d'habitude. Voilà. Vous allez être gentils, Joujou.
Ouais, je pense qu'on va passer un bon week-end. Je vais être très gentil.
Ça donne envie d'être méchant, surtout.
Ah oui, c'est un concept que les Américains ont repris avec les Japonais. après Singapour. Et on appelle ça évidemment en Angleterre « The World Kindness Day ». Ce qui veut dire, évidemment, la journée mondiale de la gentillesse.
Moi, ce que je me demande, c'est ce qu'on va nous vendre. Parce que vous avez remarqué, quand même, et ça débouche toujours sur un truc de marketing. Donc, oui. La Saint-Valentin, les cœurs, les machins, les chocolats, des trucs. Qu'est-ce qu'ils vont nous vendre pour la gentillesse?
Eh bien, pourquoi pas, pourquoi pas un appareil photo numérique Finepix F70EXR, aussi exceptionnel que puissant. Je crois que même c'est la première fois qu'on le gagne cette semaine, l'appareil photo.
C'est la première fois.
Et ça tombe sur vous, Alexandre.
Merci beaucoup, en tout cas.
Le F70EXR représente la nouvelle génération d'appareils Finepix pourvu de capteurs super CCD-EXR. Sa technologie inédite, ça est inédite, je comprends rien. Ses nombreuses fonctionnalités, notamment son zoom optique puissant qui multiplie par 10.
Arrête.
Quoi? Ah ben si. Un zoom qui grossit 10 fois, Isabelle Motro. Un objectif super grand angle, son écran qui occupe tout l'arrière de l'appareil. Et en plus, il est suffisamment petit pour se glisser facilement dans votre poche.
C'est tout joujou en fait. Cet appareil photo.
Vive tout le F70 de Fujifilm. Bravo Alexandre.
Merci.
Karine.
Bah, tant pis.
Bah oui, tant pis. Hein,
c'est la... une prochaine fois.
Si c'était vraiment la journée de la gentillesse, je vous offrirais à vous aussi un cadeau, un appareil photo. Mais écoutez, remarquez, on pourrait pour la journée de la gentillesse. On en a, franchement, on n'en a pas gagné de la semaine.
Sinon, pour en offrir un à tous les gens du public, ça peut être super sympa. Ouais, je sais pas ce que les gens pensent.
Mais c'est pas tant de la gentillesse, là. C'est...
Laurent, c'est pas tant de la gentillesse, c'est de la générosité.
Mais pourquoi on n'a pas. On les a, on n'a pas besoin de les prendre en photo. Voyez. Tandis que ceux qui sont au téléphone, on leur offre un appareil photo pour qu'ils nous envoient évidemment la photo de leur joli visage qu'on ne soupçonne pas.
Bon, alors elle le gagne son appareil ou pas?
Mais de quoi je me mêle, vous? Hein? Enfin, franchement.
Vous êtes méchant, tu veux pas nous sucer pour la journée de la gentillesse, tout, passer sous la table?
Oh merde! Ça, c'est vrai. Ça, c'est... En fait, on devrait faire la journée de la
journée
pipe.
De la pipe ouais.
Ce serait bien meilleur.
C'est pour comme pour la galette des rois, c'est la meuf qui passe sous la table, c'est la différence.
Je ne sais plus quoi dire.
Mais ne dites rien.
Si t'es un peu débordé aujourd'hui, tu peux t'engager à le faire dans la semaine.
La semaine de la gentillesse.
Voilà. Est-ce que le public est d'accord?
Bien sûr.
Karine, Alexandre, on vous remercie, on vous applaudit.
Votre rendez-vous divertissement de l'après-midi se poursuit sur Europe 1. Vous êtes des chanceux, vous avez rendez-vous avec Laurent Ruquier. Rendez-vous compte.
Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui
a dit quoi?
Quoi?
Qui a dit je n'ai pas vocation à devenir le bureau de tous les pleureurs et de toutes les pleureuses?
Nicolas Sarkozy.
Non, je n'ai pas vocation à devenir le bureau de tous les pleureurs et toutes les pleureuses.
Frédéric Mitterrand.
Frédéric Mitterrand, mais vous connaissez toutes les réponses, vous allez me faire chier jusqu'au bout.
Elle est méchante. Hein.
Elle est méchante aujourd'hui, Isabelle Motron. Bonne réponse, Isabelle Motron. Ça mérite une explication tout de même, Isabelle, alors.
Mais oui, parce que Frédéric Mitterrand a été pris à
on
partie...
On est tranquille pendant deux minutes, allez-y.
A été pris à partie par Marine Diaye et par Éric Raoult, qui sont en ce moment en train de polémiquer sur le fait de faut-il ou non critiquer le gouvernement quand on a le prix Goncourt.
Voilà.
Et donc,
sous prétexte qu'on aurait le prix Goncourt, on serait dû à...
Un droit de réserve.
Oui, mais j'ai pas dit on serait dû à un devoir.
Oui, oui, c'est vrai.
Vous comprenez? Voilà pourquoi ils ont dit droit, cher Olivier de Kersauson. C'était pour éviter la répétition. On serait dû à un devoir.
Non, mais attends, le mec, il me regarde, il me parle, il s'imagine que je l'écoute.
Je viens de vous claquer le beignet, là, et tac!
Comme c'est la journée de la gentillesse, le retour va être dans un quart d'heure.
Bon alors, le bureau des pleurs et des pleureuses, Frédéric Mitterrand, en fait, il s'est pas trop mouillé dans cette affaire.
Attends, Frédéric Mitterrand, là, il croyait que ça y est, tout est fini, ça, on parle plus de son bouquin, je suis tranquille, je peux me rendormir et tout, et boum, il y a l'autre qui lui dit non, mais alors faut prendre parti là, parce que quand même, en tant que ministre de la Culture, etc. Donc évidemment...
Vous voulez dire par là qu'il veut plus qu'on le dérange?
Je pense qu'il a pas très envie qu'on lui demande de prendre parti contre le gouvernement en ce moment.
Ah oui.
Vous voyez, quelque chose me dit.
Ah oui, ça doit être ça, vous avez raison, j'avais pas pensé
et
à ça.
Et là, ça va être difficile, parce que c'est quand même difficile de pas dire que c'est très con de demander un prix Goncourt de se taire, quoi.
De toute façon, ça n'a aucun intérêt, putain.
Merci, je vais d'ailleurs poser une autre question tout de suite, cher Olivier, qui celle-là, je l'espère, arrivera à coller Isabelle Motro, qui fait quand même, il faut dire, le grand chelem depuis tout à l'heure.
Oui, aujourd'hui, oui.
Alors attention, qui a déjà une ville à son nom, un pont à son nom, et aura peut-être une journée internationale en 2010?
Avignon?
Pardon?
Avignon.
Il y a bien un mec d'Avignon. Pont d'Avignon, d'accord, mais
il y a bien un mec qui s'appelle Avignon.
Alors aujourd'hui, c'est la journée d'Avignon.
J'avais cru
que tout le monde me parle comme ça toute la journée.
Il y a l'historien Jacques Marseille, il y a bien peut-être un mec qui s'appelle
Avignon.
Francis Avignon.
Ouais, bien sûr. Alors vous allez me sortir tous les noms de ponts alors.
Les noms de villes aussi, c'est pareil.
Édouard VII.
Elle est défoncée, mon tour, en fait. Elle a pris de la cam avant de venir.
J'ai l'impression que Claude Sarraute lui a filé des trucs.
Ouais, c'est ça.
Alors, non, c'est quelqu'un qui a déjà une ville qui porte son nom, un pont qui porte son
nom. En France ?
Et, non, c'est pas en France. Ah. Et qui, peut-être...
vivant ou mort ?
Vivant, en plus, parce qu'ils ont décidé, évidemment, de pas attendre sa mort parce qu'ils trouvent que c'est trop long.
Donc c'est quelqu'un de très important.
Ah, c'est quelqu'un de très vieux alors.
Eh ben oui, évidemment. Où il n'y a pas encore un pont Stevieville et
ouais. Il doit y avoir un tunnel Stevie, ouais, mais
non, écoutez, franchement, joujou.
Une décharge.
Ouais. Dans le tunnel.
C'est un Américain ?
Non, c'est pas un Américain du tout. Il a déjà un pont à son nom, une ville à son nom. Et bientôt, une journée internationale en 2010. Je peux même vous dire, ce sera le 18 juillet.
C'est un prix Nobel.
Nelson Mandela.
Nelson Mandela, bonne réponse de Jérémy Michalak.
J'ai failli, hein.
C'est chouette d'avoir un pont. Moi, je trouve que c'est mieux qu'une rue, un pont.
Il est où le pont Mandela ?
Écoutez, je vous en pose la question.
Depuis
tout à l'heure, il n'arrête pas de...
Ça paraîtra, ouais, voilà. Ça paraîtra un minimum que vous soyez à même de nous éclairer là-dessus.
C'est le pont du centre-ville de Johannesburg.
Ah.
Alors voilà, ça vous va, ça comme réponse.
Très bien, très bien.
Et de mémoire, je vous le fais en plus. Et la ville, vous voulez pas savoir où elle est, la ville?
Elle est en Afrique du Sud, voyons.
Alors c'est Port Elizabeth qui a été rebaptisé Nelson Mandela Bay. Voilà. Elizabeth est pas contente parce qu'elle avait un...
Bah oui.
Elle avait un port.
Elle avait un beau port.
Elle avait un beau port.
Elle avait un port à son nom.
Ah, et ça c'est pas mal, un port à ton nom.
C'est mieux qu'un pont.
C'est mieux qu'un pont.
Encore, hein. Voilà. Et depuis 2003, donc, Port Elizabeth.
Elle est shootée ou quoi?
Quoi?
Mais vraiment, je m'inquiète, là.
Quoi?
Isabelle, elle est, y a un truc, là, je crois, hein.
Ouais, ouais.
Elle a pris du popper, je suis sûr.
Je crois que je l'excite.
Ah oui, oui, je crois, ouais.
Je vois que son mari a accepté la baiser hier pour la journée de la gentillesse.
Oh, non.
Hier, c'était.
Il était en avance.
Non, mais bah, c'est qu'il a accepté ce matin, alors.
Mais c'est vrai, elle est dans un drôle d'état.
Ouais, c'est bizarre. Ouais.
Mais pourquoi c'est bizarre, il y a Fabrice Eboué, dès qu'il sort, il vient de se mettre en pyjama d'un seul coup, qu'est-ce qui s'est passé?
C'est-à-dire qu'en fait, il est en prison le reste du temps, donc il sort avec son costume à rire.
C'est un t-shirt marinière, c'est à la mode, les marinières.
Ah bon?
Ah ouais, c'est ça.
Quand j'avais 5 ans, je portais ça. Non, c'est assez curieux, quand
ça,
même.
Ça, je dois dire que...
Je suis sûr, il a rentré, il a bien rentré dans son slip, tu sais.
Pour pas avoir
froid.
Non, je suis sûr que c'est à la mode, ça.
C'est à la mode, ça.
À Deauville, ouais. Avec un labrador sur la plage. Sur la cipule,
Non, mais c'est vrai.
Ah ouais, ouais.
La marinière, c'est à la mode.
Avec des petits mocassins.
Ouais, c'est ça.
Des petits mocassins.
Des sacs en baudoulière.
Ah, c'est pas le grand concours de la virilité autour de cette table, crois-moi. Non, franchement.
Pourtant, je suis là.
Hein. Franchement, là, Eboué, c'est ridicule, votre petit pyjama, là.
C'est vrai que c'est curieux.
Attends, tu te fous de sa gueule avec ses fringues, mais t'as vu comment t'es habillé, toi?
Moi, j'ai un pull.
On dirait une secrétaire russe des années 50.
Mais je suis une secrétaire russe des années 50. Qu'est-ce que vous
croyez? C'est les gonzesses qu'on ramassait à Vladivostok après-guerre. Mais attends, calme-toi.
Moi, j'étais pas née, mon pauvre. Moi.
T'as gardé le look.
Le look.
C'est beau, il est magnifique.
C'est vintage.
C'est une élégance, c'est fine rayure. La prestance de ce garçon au regard sombre et clair en même temps.
Ouais. Hein,
mec merveilleux, drôle, intelligent, qui vous supporte et tous depuis des mois.
Est-ce qu'il y a des boutons derrière là, des...
Non, bah, dis donc.
Arrête, Isabelle. Mais c'est vrai qu'il y a un côté. T'as regardé comment t'es maquillée ce matin?
Ouais, j'ai
T'as un côté
coup,
porno
j'explique.
Amateur, c'est très gênant. Quoi. T'as un côté...
Je suis contente que tu l'aies remarqué.
Genre en fin de journée de tournage. Quoi.
Moi, j'ai même le titre du film. Motro, boulot, sodo.
Oh.
On se retrouve après la pub.
On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier
jusqu'à 18h30.
C'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier en ce vendredi 13 novembre. Philippe Alfonsi, Fabrice Eboué, Olivier de Kersauzon, Jérémy Michalak, Isabelle Motreau et Titoff.
Europe 1, on va se gêner.
Attention. Question, si tu n'y réponds pas, bah t'es con.
Il y en a déjà eu deux et c'est la dernière fois aujourd'hui. De quoi s'agit-il? Il y en a déjà eu deux et c'est la dernière fois aujourd'hui. Allez-y Isabelle, allez-y. Allez-y.
13.
Quoi?
C'est vendredi 13 dans l'année.
Et ben voilà, il fallait le dire. Bonne réponse d'Isabelle Motreau. Ah non, parce que vous savez, moi, c'est mon côté normand économe. C'est voilà, pas parce que vous avez grillé les deux questions. Oui. Je les pose quand même, mes questions. Et vous voyez, mine de rien, il y en a quand même qui continuent à réfléchir. Isabelle Motreau est la seule à se dire, vendredi 13, journée de la gentillesse, elle y va jusqu'où? Et c'est vrai qu'il y a déjà eu deux vendredis 13. C'est pas toutes les années qu'il y a trois vendredis 13 par an. Peut-être, vous ne savez pas, mais il y a déjà eu un vendredi 13 au mois de février, un vendredi 13 au mois de mars, et c'est donc le dernier, ce vendredi 13 du mois de novembre qui tombe le 13 novembre. Un vendredi. J'imagine que vous avez acheté plein de tickets à gratter, cher Olivier de Kersauzon, rempli une grille de super loto, puisque on peut gagner quand même 17 millions d'euros grâce à la Française des Jeux et les Français. Le vendredi 13, vous le savez, gratte plus que les autres jours. Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous n'aimez pas les jeux de hasard?
Non, mais je vois pas ce que ça changera à ma vie, 17 ou 20 millions de plus. C'est vraiment... Alors un truc de minable, ça faut être pauvre pour faire un truc.
Oh, quand même, vous n'êtes pas
à que...
1 ou 2 millions près, d'accord, mais enfin...
Là... Même aux 17-20 millions d'euros près, vous ne vous rendez pas compte.
Ah oui.
C'est ce que Tony Musulin a dit à la Banque de France, il dit « Oh, vous n'allez pas me faire chier pour 11 millions, quoi. »
Bah ouais, ouais.
Enfin quand même, pardon, je vous savais riche, cher Olivier de Kersauzon, mais pas à ce point-là. Enfin, je sais pas, vous diriez non à 13 millions ou 17 millions d'euros, vous, alors.
Ah ouais, ça m'intéresse pas du tout.
Ah oui.
Pas besoin d'argent, c'est vulgaire l'argent.
Ah oui. Moi je suis d'accord avec lui. Il faut monter une association contre le loto en fait.
Moi j'aurais honte de gagner ça.
Ouais, c'est gêné après. C'est... l'ambiance de bar, à 4h du matin, quoi. Là, là, les mecs qui sont tous plaqués par leur femme. Il n'y a plus qu'Isabelle qu'on saute tous les soirs, on peut plus, tu sais. Et là tu sens vraiment l'ambiance de bar.
Que j'en ai à foutre 17 millions.
C'est vulgaire, il a raison. Mais il a raison en plus, c'est vulgaire là.
D'ailleurs ici.
Le déballer, surtout de déballer.
Ici tout le monde vient bénévolement à un repas.
Presque, presque.
Joujou, vous n'êtes pas pour l'argent ici.
Non, non, mais c'est que pour
l'argent,
c'est
que le patron.
Pour toi, pour toi.
Que pour ça.
Ouais. J'ai vu piquer un truc à toi l'autre fois.
Comment ça?
Ouais, ouais. Une écharpe, Joujou.
Parce que je dépose ses fringues au pressing.
Il rentre, il garde des habits à toi le
soir. Et puis je les renifle, ouais. J'ai récupéré 2-3 slips aussi. Ouais.
Pour le week-end. Je te jure, hein.
Il t'a demandé de faire la roue récemment ou pas?
Dites à propos de piquer, j'ai vu se faire piquer Roselyne Bachelot. Vous avez vu les images?
Oh, c'était ridicule.
À la télévision. Elle était contente quand elle s'est fait vacciner de.
Ouais, contre... puis après elle te dit non, ça fait pas mal du tout.
Ouais. En même temps, c'est bien que les médecins aient pensé à un vaccin, parce que imaginez, elle est courageuse de faire ça devant les caméras, si ça avait été un suppositoire. Non, c'est vrai. Elle a du bol, Mme Bachelot. Oh, tiens, je vais montrer l'exemple. Pouf, c'est une piqûre. Coup de bol.
Oh la vache.
Là où elle est pas chanceuse, Roselyne, c'est qu'à peine elle se fait piquer, paf, il y a un cas.
Ah oui.
Ah ouais, c'est con, ça.
C'est dommage.
Je connaissais pas le syndrome de Guillain-Barré.
Guillain.
Non,
Guillain-Barré.
Georges Guillain, c'était un neurologue et Jean-Alexandre Barré, c'est un autre neurologue. Ah bah, et ils ont associé les deux noms de neurologues pour faire pour donner un nom à ce syndrome. Alors il paraît qu'on d'un seul coup on se met à trembler très vite, on
paralyse, oui.
Mais ça se guérit.
De quoi donc?
Bah le syndrome.
Ça passe.
Je croyais que vous parliez de Roselyne Bachelot. Moi je vous aurais dit non, mais mais pour le syndrome de Guillain-Barré, oui, ça se guérit.
Ça se guérit.
On espère en tout cas. Mais on ne se bouscule pas pour la piqûre. Les Français ont du mal à se faire vacciner. Ils sont un peu inquiets par ce vaccin. C'est votre cas, Fabrice Boy, vous allez vous faire vacciner contre la grippe A, vous?
Bah moi j'habite dans le 93, en bas de chez moi, il y en a qui ont des seringues qui en passent gratuitement, donc je vais...
Vous l'avez essayé?
Avec Isabelle ce matin.
C'est pour les autres, Isabelle, j'ai l'impression.
Vous faites vacciner contre rien, Olivier de Kersauzon. Vous êtes, quand on a affronté les océans, les mers.
Des... Bah en mer, on n'est pas malade, c'est quand on est à terre qu'on est malade.
Ah ouais, voilà.
Parce que l'eau de mer, en plus, ça dégage de.
L'eau de mer, ça dégage des sinus.
Mais exactement, parce que moi, parfois, je pense à vous quand parce que tous les matins, je prends du Stérimar.
C'est
voyez
bien.
Là, on rentre vraiment dans l'intimité.
Et quand je mets du Stérimar dans ma narine droite, ouais. Après dans ma narine gauche, je me dis, tiens, je suis un peu une sorte d'Olivier de Kersauzon miniature, parce que d'un seul coup, j'ai la mer.
Alors, on rappelle
le monde de la mer vu par Stérimar. Ça fait plaisir.
Et puis après, tu te sèches les cheveux, tu dis oh là là, il y a une tempête.
Et quand vous mettez vos suppos, vous pensez à qui?
Non mais c'est vrai que quand, oui, on, est, quand on met du Stéribar, on a vraiment, on est là, on est, c'est même plus la peine de se promener sur la plage. Ah oui,
c'est le Havre chez soi.
On rappelle au public que Stéribar dans le show business, c'est un code entre nous.
Non, non, vous savez comment ça s'appelle, il y a plusieurs noms.
Sinomarin, moi je prends Sinomarin.
Ah, vous prenez Sinomarin.
Je prends Néomarin.
Ben, on se met ça. Et moi je demande à Joujou de faire le cri de la mouette à côté. C'est gars, je suis en vacances. Et ça ne suffit pas besoin de monter sur un bateau pendant des mois et des mois.
Refais la mouette, refais la mouette. Attends, je vais te chier dessus pour faire une marée noire, tu vas voir.
On fait une jolie reconstitution dans cette émission.
Ça serait très sympa.
Allez, on se retrouve après la pub.
Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1.
On va se gêner jusqu'à 18h30.
Et pour l'heure, on retourne du côté du studio Merlin d'Europe 1, retrouver Laurent Ruquier et tous ses complices du jour pour On va se gêner.
Europe 1, on va se gêner. La question intelligente
qui va énerver ceux qui n'ont pas trouvé.
Depuis octobre 2007, il y en a 35 à Besançon, et c'est manifestement une bonne idée, puisque ces modèles, il y en a 5 modèles différents, mais 35 en tout.
Des voitures électriques.
Des voitures électriques à Besançon, non, ont manifestement prouvé leur efficacité. D'ailleurs, j'en ai la preuve sur une photo que j'ai pu découvrir dans France Soir. Qu'est-ce qu'on a installé, on en a installé 35 panneaux, je peux même vous aider, 35 panneaux dans Besançon. Mais des panneaux qui servent à quoi?
C'est lié à la circulation automobile?
Du tout.
C'est écologique? Solaire?
C'est, ah, écologique, il y a un petit côté écolo. Ouais, mais
c'est des panneaux avec de la glu dessus pour ramasser les petits vieux errants, et c'est écrit tout petit. Donc ça, ils approchent pour lire, ils se collent, et puis après on les met dans un car à vieux. C'est comme les machins pour les mouches à merde. C'est là, voilà.
Pour les vieux.
Ben, c'est un truc pour ramasser les vieux.
Et ben, ce qui
dans certains quartiers. Que bah les oui, vieux, c'est ça, pas toujours plus propre. Hein. Il les ramasse, puis il les nettoie dans le doux.
Ouais. C'est drôle ce que vous dites.
Mais là, c'est pas drôle, c'est la réalité.
Mais c'est pas la réalité, c'est pas la réponse à ma question. Mais finalement, ça pourrait. Ce que vous dites là, ça pourrait être la conséquence de ces panneaux.
Mais oui, c'est bien pour
parce
ça que
les
vous
vieux
en parle.
Pourraient effectivement se coller à ces panneaux.
Ils se collent dessus, ouais.
Pour quelle raison?
Ils pourraient se coller.
Ouais. 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 Mais dans un deuxième
temps.
C'est chauffant, c'est desséchant.
Non.
Ça, c'est pour attendre le bus, par exemple, c'est chauffant, c'est des panneaux chauffants.
Non.
C'est comme pour les chiens, c'est des petits parcs bac à sable pour que les vieux fassent des cas.
Non.
Il y a comme une douche, il y a un bouton, on appuie, on a droit à un peu de canicule pour claquer au chaud.
Oubliez les personnes âgées parce que ça concerne tout le monde. Pas tout le monde, mais une bonne partie de la population.
Ils ont fait avec la crise, ils ont fait comme des petits barbecues un peu partout.
Mais au début, ça colle.
Faire des grillades,
Au début, ça colle pas.
Mais ça indique quelque chose. Ça colle quand on reste trop dessus.
Non. Ça finit par coller, mais pour une bonne raison.
Ah bon,
c'est du miel, je sais pas. C'est quelque chose qui, comme des bougies, de la cire.
C'est des abris. C'est des abris pour prostituées.
Non.
Ça colle à la fin.
Non.
Il y a de la cire?
Non, mais on se rapproche là, quand même, de la bonne réponse.
Ah bon.
Il y en a 35 à Besançon.
C'est grand?
Ah, c'est des panneaux, comme les panneaux publicitaires que vous pouvez voir.
Ah oui, donc c'est grand quand même.
Ah oui,
des sucettes, des sucettes.
C'est dans les Vosges, Besançon?
Non, c'est dans le Doubs. Abstiens-toi, monsieur. Kersauzon.
Astuce de classe de cinquième.
C'est comme des poubelles?
C'est-à-dire?
C'est pour poser quelque chose dessus. Est-ce que c'est pour épingler, mettant des post-it, des trucs comme ça?
Ah, on se rapproche, monsieur Titoff.
Oui, alors?
C'est dans la rue?
Des panneaux sur lesquels on met des panneaux magnétiques.
Des ballons. Ça colle? Et ça colle après, ça colle.
Des panneaux d'affichage.
On met des chewing-gums.
Voilà.
Alors, c'est-à-dire?
Chacun pose son chewing-gum.
Voilà, pour éviter
de que ça colle par terre.
Bonne réponse de Titoff! Des panneaux à chewing-gum.
C'est complètement idiot.
Ah, c'est bien, en période de grippe A, comme ça, c'est une bonne idée, je trouve.
Colle ici ton chewing-gum, par terre, t'es à côté de la plaque, c'est ce qui est écrit sur ces panneaux. Et bon, effectivement, slogan, les bisontins, puisque ce sont le nom, c'est le gentilé des habitants de Besançon, bisontins, eh bien... Pourquoi vous riez-vous, Kersauzon?
Je connaissais pas le mot gentilé.
Ah oui, mais on a appris ça ici. Ouais.
Hein. Ah bah oui.
C'est quoi votre gentilé à vous? Vous êtes né où, vous, monsieur de Kersauzon?
À Bonnétable.
Bonnétable?
Ouais.
Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, il l'a osé, quoi. Ouais, on a tous pensé, on a dit, bon, ouais, c'est passé, ouais, ça, ouais, quand même. Et puis...
Je savais même pas que ça existait, Bonnétable.
Ah si, c'est à la Bretagne, il était bombardé de tous les côtés à l'époque.
Ah ouais?
J'étais réfugié, j'étais en résistance, moi.
Ah ouais?
Ouais.
Ah, vous m'épatez.
Ouais, bah oui, je sais que tout ça, ça te dépasse. Tu ne vois que les panneaux, on colle des chewing-gums pour attirer des vieux affamés qui viennent mâchonner le long du panneau.
Ce qui est le plus étonnant, c'est qu'il n'était pas loin.
Ouais, mais je...
Parce que c'est vrai, au bout d'un moment, quand il y a tous les chewing-gums de la ville sur le panneau.
Il y a des vieux qui lèchent.
pour prendre du sucre un peu.
Prendre un peu de glucose.
Non mais c'est vrai que c'est bien parce que là ils avaient refait tout le centre-ville à Besançon.
À cause des chewing-gums.
Non mais oui parce que il y a un moment donné ils se sont dit quand même on va pas ressaligoter tout.
Non mais il y a vraiment des gens qui ont rien à foutre.
Hein. Comment ça?
Oh là là, inventer des panneaux à chewing-gum, mais
mais ça, c'est pas marrant c'est de marcher sur les chewing-gums.
Ça abîme par terre. Et vous seriez à Singapour.
Tu aurais une amende.
Tu pourrais faire la même chose avec les crottes de chien, tu sais. Tu colles les crottes de chien sur un panneau pour plus qu'on marche dedans.
Ah, mais tu colles ton chien contre le panneau.
Non, voilà, tu fais comme dans les fêtes foraines, des trucs avec des trous, tu vois, avec la tête de quelqu'un.
35 panneaux qui visent à inciter les passants à se débarrasser de leurs pâtes à mâcher usagées. Ah
ouais, et quand il y a du vent, tu crois que ça fait des bulles ou pas? Des bulles géantes.
Et voilà, au lieu de jeter nonchalamment au sol votre chewing-gum, vous le collez sur cet espace spécifiquement destiné à recueillir le chewing-gum.
Mais il faut qu'il y en ait vraiment beaucoup.
Comment
parce
ça?
Que sinon, je sais pas, tu marches dans la rue, puis d'un coup, t'en as marre de ton chewing-gum, et tu dis, attends, faut que j'aille au panneau à chewing-gum pour jeter mon chewing-gum.
Bah, il y en a 35, Besançon, c'est pas non plus New York, vous voyez, 35.
Mais c'est encore plus dégueulasse à l'arrivée, parce que du coup, il y a des chewing-gums partout dans Besançon.
35 panneaux dans Besançon, vous n'avez pas besoin de garder votre chewing-gum très longtemps avant de trouver un panneau, je pense.
Je suis sûr que ça vaut une fortune, en plus, ces panneaux.
Un panneau?
Mais non!
Ils les enlèvent tous les jours ou pas, les chewing-gums?
Oui, alors voilà comment ils enlèvent.
Les gardent un gratte, oui.
Ah bah, ils les enlèvent au bout d'un moment, les chewing-gums.
Mais qui a eu l'idée?
Qu'est-ce qu'ils en font alors?
Ils les remâchent! Ça vous va ça? Ils les remâchent!
Non, ils les offrent aux pays sous-développés.
Colle ici ton chewing-gum. Regardez, je vais vous montrer le panneau.
Ah bah, rien que le fait, rien que colle ici ton chewing-gum. Pourquoi on tutoie les gens comme ça? C'est indécent.
Ah, ça c'est vrai. Ah, ça vous avez raison.
Parce que c'est pour les jeunes.
C'est pour les jeunes, parce que les vieux mâchent pas de chewing-gum.
Parce que. Pas les jeunes, moi. Par terre, t'es à côté de la plaque.
Ah ouais, vraiment.
L'Italie, ça vous botte?
Ouais, c'est dans le même genre. Discours de crétin, là. Ouais.
Bon, non, moi je trouve ça plutôt bien, vous voyez, parce que c'est pas très agréable après quand vous marchez sur un chewing-gum.
Mais c'est pas ça, mais c'est qu'on tutoie. Voilà, je n'aime pas ça, moi.
D'accord.
C'est pour les jeunes, c'est pour les jeunes.
Oui.
Un vieux, il peut pas laisser son truc, il va laisser le dentier avec, tout ça, tu peux pas laisser tout.
Là, sous la table, je vais vous dire, c'est pas compliqué. J'ai l'impression de voyager, je suis à Besançon. Oh. Un peu de musique et on se retrouve après.
C'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier et ses complices.
Europe 1, on va se gêner.
La question culture générale. Bah oui, il en faut.
Augustin Trébuchon est quelqu'un qui n'a vraiment pas eu de chance.
Ah bah non, avec, non, pareil.
Avec le nom déjà.
Ouais. Et on a parlé beaucoup de lui cette semaine, Augustin Trébuchon. Pourquoi n'a-t-il pas eu de chance, Augustin Trébuchon?
C'est sportif?
Du tout. Et on a énormément parlé de lui cette semaine. Et ça s'est joué à 15 minutes près, la raison pour laquelle il n'a pas eu de chance. C'est une question très intelligente, très émouvante.
Émouvante.
Très importante.
Ah oui.
Pourquoi Augustin Trébuchon n'a-t-il pas eu de chance à 15 minutes près?
C'est une histoire de...
Et là, on rigole moins autour
d'un. Il a loupé un train, il a loupé un avion.
Et là, on n'est pas dans les chewing-gums à Besançon.
Il avait un train à prendre, non?
Est-ce que c'est lié à la maladie?
À la maladie, Madame Motreau, non.
Quelque chose de non.
Et comptez pas sur moi pour vous aider, là.
C'est émouvant. Ça, on va être ému, quoi.
On va être ému.
Ah oui, vous allez être ému. Oui, c'est émouvant. Franchement, je trouve ça émouvant.
C'est une histoire de famille, quelque chose, des retrouvailles. Des retrouvailles.
Vous voyez combien je suis ému là déjà? Une petite larme même.
Alors il a raté quelque chose, donc à 15 minutes près, il aurait rencontré quelqu'un?
Non, non.
Il aurait gagné de l'argent?
Non, non, non.
Il serait pas mort?
Il serait pas mort à 15 minutes près, Augustin Trébuchon.
C'est ça?
Exactement.
Ah, il s'est suicidé?
Non, il s'est pas suicidé.
À 15 minutes près?
Ouais.
Il travaillait à France Télécom, ce
non.
monsieur?
Non, 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 non.
À 15 minutes près. Alors il est mort parce que...
Un train était en avance?
Non.
Il a été accidenté?
Cherchez le nom, Augustin Trébuchon déjà.
Il a trébuché?
Mais est-ce que c'est quelqu'un de vivant déjà?
Mais non. Parce
que...
Bah s'il est mort.
Est-ce que c'est un héros de bande dessinée? Est-ce que c'est un héros imaginaire?
Ah, vous voulez dire, est-ce que quelqu'un qui a vraiment existé?
Voilà.
Ben oui, c'est ça votre question, oui.
Mais elle veut pas que ce soit dans la réalité en fait.
Il est mort là ces derniers jours.
Ah non, il y a longtemps déjà.
Ah, c'est sûr, on fait pas de blague. Bah, voilà.
Eh oui, parce qu'Augustin Trébuchon déjà, ça aurait dû vous donner que c'est pas un nom vraiment d'aujourd'hui, Augustin Trébuchon.
19e siècle?
Non, non, non.
Il est connu?
On a beaucoup parlé de lui cette semaine, Augustin Trébuchon. Non, sous son nom.
Bah, c'est un
poilu.
C'est un poilu.
Alors.
Tiens, c'est un des derniers tués de la guerre de 4.
Il s'est fait fusiller par les SS.
Ouais, fusillé.
Où il y a eu le mur de,
avant l'armistice.
Sarkozy a fait,
blessé.
Ah, il est mort juste avant l'armistice. 15 minutes avant l'armistice.
Voilà. Il est mort 15 minutes avant le cessez-le-feu. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon et Philippe Alfonsi.
Ouais, moi rien.
C'est la dernière victime de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire c'est qu'un quart d'heure avant le cessez-le-feu, je crois que c'était à 11h, on nous l'a répété à plusieurs reprises pendant les commémorations du 11 novembre, c'est-à-dire à 11h moins le quart, voilà, il meurt au combat, il meurt sur le front, alors que 15 minutes plus tard, on annonce l'armistice, conclu à 5h40, il n'entrait en vigueur qu'à 11h le 11 novembre, on n'était plus en guerre à partir de 11h.
C'est parce que c'est-à-dire qu'il y a l'armistice à 5h du matin, mais il faut attendre 11h pour faire la paix.
Bah, faut faire les papiers.
Faut les appeler.
Donc, ça se trouve, le mec, il avait une montre qui était un peu en avance. Il a fait, c'est fini! Ils ont tiré, quoi.
C'est affreux. Mais oui, parce qu'il avait passé 4 ans au front. Regardez comme cet article est bien écrit, en plus. Chaque jour, il flirtait avec la mort, Augustin Trébuchon. Et finalement, décédé le 11 novembre 1918, quelques minutes avant que le clairon ne sonne la fin des combats, faisant de lui l'ultime victime de la guerre mondiale, la première, à Vrigne-Meuse, on est dans les Ardennes. L'ancien maire du village, Georges Domollier, se bat pour que la France honore la mémoire d'Augustin Trébuchon, mort pour la France à un quart d'heure. Près. C'est quand même dingue. Hein,
C'est pas plus mal comme ça. Moi.
Comment ça, qu'est-ce que vous dire,
il n'avait pas un nom, Augustin Trébuchon, fait pour vivre dans l'ère moderne, de toute façon. Ouais, fallait qu'il en finisse.
S'il a flirté avec la mort durant 4 ans, c'est bien normal qu'elle le baise au bout de 4 ans, non?
Non, mais il faut bien un dernier, surtout.
Comment ça?
Il fallait bien un dernier, mais si ça n'avait pas été lui, il n'y en aurait rien qui...
Bah ouais, il n'y en aurait un autre. À 20 minutes près, donc...
20 minutes, eh ben oui, c'est... Joseph Robluchon, qui est mort 20 minutes avant.
Pas tort.
Non, mais d'accord, mais si c'est 3-4 heures avant, d'accord, mais un quart d'heure avant, on peut quand même se dire c'est con, vous voyez.
Mais ça aurait pu être une minute avant. De toute façon, c'est pas grave, un quart d'heure près, il en prend pour l'éternité, alors arrêtez de mégoter, non, c'est normal.
Vous, forcément, Titoff, c'est plutôt un quart d'heure après que vous auriez été battu sur le front, puis vous êtes toujours en retard. Mais quand même, moi je trouve, pardon, si vous n'êtes pas ému par cette histoire, alors merde.
C'est vrai que il y en a dans chaque guerre, il y en a qui sont morts après.
Il y a plein de mecs qui sont morts après.
Comment ça, il y a plein de mecs qui sont morts après?
L'histoire qui est encore plus
symbolique, mais il y a eu des mecs qui ont été tués à 11h30, à midi moins le quart. Ce que vous croyez, là, faut être votre naïveté enthousiaste, stupide, facile à s'émouvoir devant n'importe quelle déclaration de maire frontalier qui peut, ce pauvre Trébuchon, c'est peut-être seulement il y a peut-être 40 ou 100 mecs qui sont morts encore après. Ce n'est qu'on est que dans la symbolique, on n'est pas dans le réel, ça n'a aucun intérêt.
Mais si, parce qu'on a son nom, c'est pas le seul.
Et tout ça pour que finir que les mêmes boches qui l'ont flagué, ils étaient en train de casser la croûte et se faire des œufs sur le plat à l'Arc de Triomphe avec le président. Là, non, mais ça va pas, non?
Non, mais là, monsieur Trébuchon, lui, il mériterait peut-être. Tiens, puisqu'on a mis un soldat inconnu. Pourquoi pas mettre un soldat avec un nom connu, Augustin Trébuchon, ce serait mieux.
Voilà. Trébuchon, ça l'émeut pour ça.
Mais
tous ces poilus qu'on au chemin des dames, tu déconnais qu'un petit con. Voilà.
Il était en plus blessé déjà.
Nous, on y était au 120e mairie.
Blessé deux fois, promu première classe.
On était au chemin des dames contre les boches, on leur tirait dessus nous et jour. Ils vont se faire insulter par ce petit trou du cul de Ruquier. Ah, mais ici, ils parlent de Trébuchon, mais moi j'ai d'autres copains. Lambier, Peugnot, Mouillard, Sapinette, Kreposki. Non, mais c'était une autre histoire, la guerre de 14 pour nous. Mais ça n'a même pas fait de service militaire, ça fait un service civil de lèche-cul dans les ministères, le Ruquier. Alors, tout d'un coup, ça s'émeut parce que tu rinques un peu de chance, mais combien de nos camarades n'ont pas eu de chance, hein. Quand le 11 novembre, le clairon a sonné sur le chaos humide et sombre des tranchées, tu crois pas que pour nous, ça a été une grande libération. Et tout ça pour se faire insulter par cette espèce de petit mange-merde à lunettes, hein, qui paie comme un haricot, qui aurait été réformé avec la gueule qu'il a. Enfin, quoi qu'au chemin des dames, il aurait peut-être pu réussir.
Au contraire, monsieur de Kersauzon, au contraire, je suis en train d'honorer la mémoire d'un homme blessé par deux fois sur le front. D'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'on nous dit qu'il a été blessé deux fois sur le front et il est mort d'une balle en pleine tête. Ça s'invente pas quand même. Donc la troisième a été la bonne, en fait. Non, c'est affreux. Et en tout cas, Helmut Kohl va sûrement venir à Vrigne-Meuse pour célébrer Augustin Trébuchon. Il serait temps de reconnaître
son grand-père qui avait tiré.
Au niveau national le tragique destin de ce soldat et de rétablir la vérité historique et de l'ériger en symbole pour toutes les victimes de ce conflit. Moi, je suis assez d'accord.
Moi, je trouve le plus triste, c'est le mec qui, au contraire, qui meurt pas dans le dernier quart d'heure, qui, c'est la fin de la guerre, il est pas mort, il rentre chez lui, mettons, et il tombe des escaliers ou il se prend une tuile sur la tête. Ça, c'est vraiment triste.
Ben oui. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom des soldats allemands qui, après le 11, rentrent chez eux, ont pris des tuiles sur la tête?
Ça serait pas l'armistice de 17h, là?
Ouais. Bravo, Joujou, heureusement que vous êtes là. Allez, on se retrouve dans un instant après les titres.
Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1.
On va se gêner jusqu'à 18h30. Europe.
Laurent Ruquier sur Europe 1.
On va se gêner.
C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Isabelle Motreau, Philippe Alfonsi, Titoff, Olivier de Kersauzon, Jérémy Michalak et Fabrice Eboué. Et au téléphone, pour le deuxième challenge du jour, Annie et Rosario. Bonjour Annie.
Annie. Bonjour Laurent.
Annie, vous êtes ch'ti ou vous êtes dans le Nord par hasard?
Moi, je suis native de l'Oise. Ah. Sinon, je suis mariée prête, à un pur ch'ti.
Ah, vous êtes mariée à un ch'ti et vous vivez à Preux-au-Bois.
C'est exact.
Qu'est-ce que c'est que ça, Preux-au-Bois?
Ben, c'est un village dans l'Avesnois, entre le Quesnoy et Maroilles.
En Suisse, Rosario nous attend à Yverdon-les-Bains.
Bonjour.
Le match Preux-au-Bois contre Yverdon-les-Bains,
on touche la France profonde.
On est en Suisse profonde.
Je pense à tous ceux qui nous écoutent sur podcast à l'étranger. Tout ça,
bonjour Rosario.
Oui, bonjour.
Et c'est un joli prénom, Rosario.
Ouais. Ben, merci.
Pourquoi vos parents vous ont appelé Rosario, vous savez?
Ma grand-mère s'appelle Rosaria.
Bien sûr.
C'est comme la grand-mère de Laurent qui s'appelle Laurent, ça, on fait tout ça de toute façon.
Non, il s'appelait Joséphine, ma grand-mère. Joséphine. Annie, vous faites quoi, vous, dans la vie?
Alors, nous sommes retraités depuis l'année passée.
Vous êtes retraité de quoi?
Alors, moi, j'étais en grande surface et mon mari travaillait dans une
Auchan.
De mutuelle.
Bon, très bien. Et vous êtes heureuse d'être à la retraite aujourd'hui?
Tout à fait.
Bien, vous en profitez, j'espère.
Oui.
Ça vous permet de nous écouter tous les jours?
Exact.
Et vous avez des chouchous dans l'équipe?
Oh, j'aime bien Jérémy.
C'est bien la première fois.
Faudrait lui demander si la lotte était bonne hier.
La lotte, ah oui, on a mangé de la lotte à la télévision hier soir.
Vous avez vu, nos auditeurs regardent Joujou tous les soirs à la télévision.
C'est l'audience de cette émission est incroyable, en fait.
Sur France 5.
Ouais, ça marche très bien.
C'est grâce à nous, vous savez.
Je sais bien.
Les gens d'Europe 1.
Bah, c'est une belle émission.
Vous voyez.
Ça change.
Parfait. Dans le Nord, près de Maroilles, on regarde.
Quand on a la retraite dans le Nord de la France, forcément.
Puis là, vous savez, il y a un super cadeau à gagner. Si vous êtes à la retraite, là, il y a un appareil photo, vous allez pouvoir faire des photos cochonnes avec votre mari, tout ça.
Oui, exact.
Non, c'est un GPS qui vous permettra de sortir de Preux-au-Bois.
Non, ça capte pas là-bas.
Je crois que c'est alors vous allez pouvoir vous cacher dans les bois, il va falloir qu'ils vous retrouvent alors.
Et en plus, on est tout près de la forêt.
Et vous, Rosario, faites quoi dans la vie?
Je suis employé de banque.
En Suisse. C'est normal.
Jour, hein.
Et c'est où d'ailleurs, Yverdon-les-Bains?
Ben, c'est à 50 km de Pontarlier. Hein.
C'est sur le lac, Clément?
Non, c'est le lac de Neuchâtel.
Le lac de Neuchâtel, très bien. Voilà. J'ai pas pris l'accent suisse.
C'est bon, tu es trompé de pays, Laurent.
C'est
comme si on te demande de faire Giscard d'Estaing et tu fais Bourville, quoi.
L'accent suisse ne me revient pas, mais ça va revenir.
Moi, je l'ai pas, de toute façon.
On peut l'avoir quand même, Rosario.
Tu penses à la pub au Malti.
On peut quand même vous faire jouer, hein. Et voici la question.
Faut répondre vite.
Attention.
Je parle un peu trop vite, moi, pour être suisse.
Il faut être rapide pour répondre à la question et gagner le GPS. Hein. Alors, attention.
Moi, je propose qu'on parle comme ça toute la dernière heure. Jusqu'à l'invité mystère.
Annie.
Oui, c'est la journée de la gentillesse. Aujourd'hui, on va avoir un petit peu plus de temps pour réfléchir.
Ça, c'est tout réfléchi. Voici la question. À Sydney.
Mais où c'est que ça va bien, Sydney?
À Sydney, en Australie. Il en a manqué 53 pour établir.
Soit t'arrêtes, soit je me casse.
Il en a a manqué 53 pour établir un record du monde. 53 quoi ? Il en a manqué 53 à Sydney.
Des gens qui se sont déshabillés et qui ont fini en maillot de bain ?
Bonne réponse de Rosario.
Cyber, est-ce qu'on peut donner la bonne réponse à un type qui dit qu'ils sont déshabillés et puis qu'on finit en maillot de bain?
Alors, expliquez de quoi il s'agit, Rosario.
Bon, en fait, ils sont baladés en bikini. Hein.
Voilà, et il s'agissait d'établir un record du monde de...
Câlin.
De câlin?
Ouais.
Je crois pas. Non.
Ah, bah, la bonne réponse est annulée, c'est pas ça.
Et c'est Annie qui gagne.
Non, tout simplement, 253 habitants de Sydney ont posé en tenue de bain pour le célèbre opéra de la ville, l'opéra de Sydney. Pour
ouais, 47,
l'opéra à Sydney, l'opéra, c'est l'opéra de Sydney, oui, c'est pas la peine de le répéter.
Oh, du Théo, vous, alors là. Mais...
Faut pas le contredire, il a raison.
Vous auriez mieux fait, monsieur de Kersauzon, de savoir qu'il manquait 53 personnes en bikini pour battre le record détenu pour l'instant par l'Afrique du Sud. Et les Australiens n'ont pas battu ce record. Il aurait fallu 287 personnes.
Mais dans certains pays d'Afrique, ils gagnent tous les jours le record. Hein.
Mais c'est ça, je comprends pas non plus, moi, ce record. Parce que
c'est très con, quoi.
Ça me paraît pas beaucoup, 235 ou même 287 personnes en maillot de bain. J'ai l'impression que ce record est battu sur toutes les plages.
Mais c'est une parade, hein. Apparemment, c'est une parade, c'est écrit sur Internet.
Sur une parade, oui, c'est une parade.
Donc, c'est peut-être pas pareil que d'être sur une plage, ou je sais pas quoi, peut-être se balader et après.
Oui, d'accord.
Je sais bien que t'es suisse, mais on n'a pas autant de temps que toi, vraiment, donc si tu peux...
Ce qui est bien, c'est qu'ils sont pas chiants, les Suisses. C'est ça qui est bien.
Je suis pas suisse.
Mais pas suisse.
Vous venez d'où, Rosario ?
Je suis italien.
Italien, Rosario. Rosario, grâce au GPS de la marque Mio, vous allez pouvoir retourner en Suisse.
Non, mais j'habite en Suisse.
Et vous allez pouvoir y rester.
Je suis né en Suisse.
Tu serais pas un peu chiant, Rosario ?
Ouais, un peu, ouais.
En tout cas, Rosario, vous avez gagné un GPS de la marque Mio qui va vous guider dans 23 pays d'Europe. Et vous, alors, s'il y a bien quelqu'un d'européen, c'est bien vous, Rosario.
Ben, merci beaucoup, en tout cas. Hein. Avec... Je vais vous dire que j'aime beaucoup votre
émission. Tu vas fermer ta gueule sur cette émission.
Fabrice, en plus, il vient à Montreux au mois de décembre, donc fais gaffe. Hein.
Ah, mais on vient tous à Montreux au mois de décembre.
Tout le monde.
Les 7 et 8 décembre, on fera l'émission en direct de Montreux. Effectivement, moi, j'aurai l'occasion de présenter le gala d'ouverture de Montreux avec Michael Gregorio. Fabrice Eboué en fera partie. Et nous ferons l'émission là-bas en direct de Suisse, en direct de Montreux. Juste avant qu'Olivier de Kersauzon nous revienne. Il reviendra le mercredi 9 décembre de Papette. Enfin, peut-être, hein, il reviendra parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il est en train de changer d'avis, mais Titoff sera aussi avec nous à Montreux pour ce gala d'ouverture. Et Joujou aussi, il fera bien quelque chose, Joujou. Hein, hein, il fera bien une petite apparition.
Oui, peut-être, oui.
Allô, on est coupé.
On n'a pas le temps de prendre ton adresse, Rosario, pour envoyer le GPS, on est désolé.
Allô, Rosario.
Rosario, tu nous entends?
Je la connais, la vanne, c'est bon.
Faut pas l'en faire en Suisse. Hein.
Il a déjà écouté de Chavannes, il est pas con. Hein. Il vous guide dans 23 pays d'Europe, mon GPS Mio, avec infotrafic, et même, vous pourrez regarder les chaînes de télévision de la TNT, c'est-à-dire une vingtaine de chaînes, sur un écran de 7 pouces, le Mio Move V735 de Mio. C'est un peu comme l'opéra de Sydney qui est à Sydney, le Mio, c'est de Mio. Eh ben merci,
tu peux coller 25 millions de
fois.
C'est quoi votre message?
Non, juste salut tous les gens que je connais, et puis surtout Yesenia, qui se reconnaîtra.
Annie, on vous embrasse aussi.
Ben, moi, pareillement, il a été trop rapide, dommage.
Désolé Annie.
Et on peut le raccrocher, de façon standard, lui, peut-être.
Et vous embrassez tous les habitants de Preux-au-Bois, ils sont combien?
850.
Ah, quand même, oui, non, on va peut-être
sortir.
Rosario.
Ouais, vas-y.
Rosario.
Ouais.
Excuse-moi, mais t'as pas remarqué que souvent, mettons, tu rencontres des gens, tu leur parles, tout ça, et puis au bout de quelques jours, après, ils te rappellent plus jamais?
Allez, on se retrouve dans un instant.
Comment bien entamer son week-end? Eh bien, vous restez sur Europe 1, vous écoutez On va gêner, vous écoutez Laurent Ruquier et ses complices. On s'amuse tous les après-midi avec l'actualité et ça continue jusqu'à 18h30.
Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui
a dit quoi?
Quoi?
Qui a dit mon corps ne demande qu'à se reproduire?
Un grand mégalo.
Céline Dion?
Pas Céline Dion, ah non, la pauvre, déjà qu'elle a fait une fausse couche. Non.
C'est une femme qui a dit ça?
C'est une femme qui a dit ça. Mon corps ne demande Bachelot qu'à se reproduire. Non, c'est pas Roselyne Bachelot.
Mais c'est pour rire ou c'est quelqu'un qui a dit ça sans se rendre compte que c'est des...
Non, c'est quelqu'un qui a confié ses envies de maternité à un mensuel. Oui, je pourrais même vous dire quel mensuel, au mensuel américain Rolling Stones.
Une française?
Une française, non madame.
Bon, c'est une américaine.
Une américaine, pas tout à fait.
Ah bon?
Pas tout à fait.
Une anglaise. Canadienne.
Non.
Albanaise.
Non.
Pas tout à fait.
Pourquoi une albanaise?
Je sais pas, c'est le seul pays que je connais.
Une arménienne.
Une sud-américaine.
Mon corps ne demande qu'à se reproduire.
Elle est âgée?
Non, pas du tout. Non, c'est une vraie bombe.
Une vraie bombe.
Salma Hayek.
Mexicaine.
Jennifer Lopez.
Une bomba latina.
Shakira.
Shakira, bonne réponse. Fabrice, vous voyez qui c'est Shakira? Olivier, non, vous connaissez pas toutes ces filles-là. Hein. Shakira, elle est super sexy, elle se traîne dans la boue en chantant, elle se met du cambouis sur les avant-bras.
Ouais, continuez.
Je vous jure, elle nous excite. Un clip de Shakira, ça met alors...
Elle est souple, hein.
Elle est très souple.
Elle est adorable. Elle est dans une cage, son ami,
une cage,
la panthère, tout ça. Il m'a dit, tu as demandé de faire la même chose l'autre fois.
Non, je vous jure que c'est...
Moi, je vois très bien.
Moi, j'aime bien l'escalade qu'il y a chez ces chanteuses, en fait.
C'est-à-dire?
Mais parce qu'elles ont commencé, Mariah Carey à l'époque, elle était en robe noire, sur scène, très, très sobre, et puis à fur et à mesure, il y en a une, elle a commencé à se mettre en short, et puis après l'autre, elle s'est mise en soutien-gorge, et puis là, carrément, elles arrivent, c'est la concurrence de celle qui va être le plus sexy. Alors, carrément, à la fin, mais elles chantent même plus, quoi. Elles arrivent juste à poil et elles repartent. Je t'ai juste remarqué, vous avez remarqué que Isabelle était en descente après une première heure,
Ah, ça faisait longtemps!
Le deuxième effet de la cocaïne.
Je me disais, c'est bien! Je vais pouvoir dormir tranquille là, ils vont me laisser tranquille.
Non, car vous allez certainement, chère Isabelle Motreau, pouvoir répondre à la question suivante. Karl Strugnell est le seul Français connu, à pratiquer ce sport. Un sport qui allie capacité de concentration et force physique. Karl Strugnell pratique un sport quand même encore assez méconnu. De quel sport s'agit-il? Je ne vais pas vous donner le nom de ce sport, car évidemment, vous comprendriez tout de suite de quoi il s'agit, mais vous ne pourrez pas deviner le nom de ce sport. Ce que je vous demande, c'est en quoi il consiste.
C'est avec des poids? Il faut soulever des poids?
Pas du tout.
On a eu une fois un mec qui jetait des grands bâtons.
Qui jetait des bâtons, ouais.
Non, c'est pas ça. Hein. Non.
Mais c'est un sport de ce genre-là, un truc très peu pratiqué?
C'est un sport hybride, en quelque sorte.
Voilà. C'est genre du tennis, mais avec un ballon de foot. Quoi,
exactement.
Truc,
ouais. Alors, c'est du tir à l'arc sous l'eau?
Mais c'est de ce genre-là. Il y a une fédération internationale, hein, il faut savoir. Et là, on a nous un Français qui est le seul Français à participer au championnat d'Europe, puis du monde, parce qu'il y a un championnat du monde.
C'est le champion de France.
C'est du saut à la perche sous 2,50 m de plafond.
Non.
Est-ce que c'est pratiqué aussi par les femmes ou c'est un truc exclusivement masculin?
Non, mais je peux vous dire qu'en Sibérie, le 28 novembre prochain, il y aura la finale qui se jouera, le titre mondial, devant 5000 spectateurs au Palais des Sports de Krasnojarsk. C'est en Sibérie.
C'est de la course à traîneau sans les chiens?
Non.
C'est un truc avec des skis?
Du saut en longueur unijambiste?
Je crois
qu'il faut jouer au poker en saut de mise en ours polaire.
Non, mais on commence à se rapprocher.
Ah. Ok, faut chercher avec un ours polaire.
Quoi, avec l'ours ou
donc
avec
c'est
le poker?
Un jeu de cartes.
C'est-à-dire que c'est un sport qui allie à la fois, je vous l'ai dit, une capacité de concentration et une force physique. Ouais. C'est-à-dire que c'est à la fois intellectuel et physique.
Des échecs?
Oui.
Alors, échec boxe.
Échec et boxe. Bonne réponse, le chess boxing. Bonne réponse de Fabrice Evry. La surprenante fusion entre les échecs et la boxe, c'est un sport qui est né dans une bande dessinée d'Enki Bilal, qui a été créée de toutes pièces en 1992 dans une bande dessinée qui s'appelait Froid Équateur, sauf que ça a été repris depuis, qu'une fédération internationale est née, qu'un premier combat a été organisé, puis que des clubs sont apparus à travers l'Allemagne, l'Angleterre. Il y a désormais un championnat d'Europe. Les règles, voulez-vous les règles? Les règles sont assez simples. Il faut connaître les règles de la boxe anglaise et les règles
des échecs.
Hein. Le match comprend 11 rounds. 6 rounds de 4 minutes aux échecs et 5 de 3 minutes à la boxe. On commence par les échecs. La table où se trouve l'échiquier est ensuite simplement déplacée et ensuite les deux adversaires boxent. C'est-à-dire qu'ils ont déjà leur gant de boxe quand ils déplacent les pièces de l'échiquier.
Ah, c'est ça la difficulté, c'est que t'as les gants quand tu déplaces.
Le match s'achève soit par échec et mat, mais s'il n'y a pas eu échec et mat,
KO.
Il s'achève par un combat de boxe et il s'achève par KO. Voilà, le chess boxing, en quoi ça consiste.
C'est Bilal qui a inventé ça.
Ouais, c'est assez intéressant parce que vous voyez, ça permet de marier deux combats et d'allier en fait le côté intellectuel des
la
échecs
boxe avec le côté mental des échecs. Ouais,
ouais, t'imagines un peu le gringalet, le mec qui fait 60 kilos en face, il a un monstre, tu sais. pourvu que je le mette échec et mat, pourvu que je le mette échec.
Moi, je suis un bon joueur d'échecs, moi.
C'est vrai. Ouais. Bah, le chess boxing vous permettrait d'allier la boxe et les échecs. Et on devrait inventer des tas de nouveaux sports comme ça où on.
Je sais pas si c'est très utile. Moi.
Alors, bah, si je sais pas, par exemple, moi, le Scrabble aquatique, par exemple. Ce serait pas mal.
C'est-à-dire, tu joues au Scrabble et après tu fais une longueur.
Oui, il s'agirait de plonger pour aller chercher les lettres. Vous voyez, par exemple.
Alors, faut du judo, judo exta aussi, par exemple.
C'est quoi ça?
Mais tu prends un exta et tu fais du judo.
Ouais, voilà, bah, c'est pas mal ça comme sport. Vous voyez, il y a des tas de choses à inventer encore. Ça relancerait un peu ces sports qu'on regarde plus, qu'on suit plus.
Le foot, tu veux dire?
Ah, dites donc, c'est demain soir. Moi, j'ai tout annulé hein, pour demain soir.
Qu'est-ce qu'il y a demain soir?
À France-Irlande.
Bah, il y a un match quand même. Enfin.
Pardon.
Alors... Commenté par Thierry Roland, c'est qu'il va peut-être mourir en direct. Il y a du suspense.
Là, je vais peut-être regarder alors.
Vous le connaissez bien, Thierry Roland.
Oui. Il peut pas commenter. Il est empaillé, c'est un imitateur. c'est un imitateur qui est derrière.
C'est Cantelou, en fait.
C'est Cantelou qui est derrière.
Et empaillé.
Parce qu'il commente encore, Thierry. Mais moi, attention, hein, c'est un des meilleurs commentateurs que je trouve pour le football. Mais alors là, je vais être très sérieux deux secondes. Je l'ai dit d'ailleurs hier soir dans l'émission On n'est pas couché qu'on a enregistré. J'ai dit ça à Dugarry. Aujourd'hui, ils sont chiants, les commentateurs de foot.
Parce qu'ils sont pas racistes.
Non.
Ça manque.
Non, ils commentent plus. Ils parlent d'autre chose. Thierry Roland, il vous dit qui a le ballon et qui le passe à qui. C'est son truc à Thierry Roland.
Qu'est-ce qu'ils font les autres alors?
Attendez, je vous explique. Thierry Roland, quand il commente un match, il fait Dugarry qui passe à Zidane.
Oh, plutôt les jaunes qui passent à l'arabe et qui repassent au noir.
Vous avez les noms.
Oui.
C'est-à-dire qu'un aveugle pourrait suivre un match de télé commenté par Thierry Roland.
Ah bah oui.
Il saurait ce qui se passe.
Ou tout simplement.
À la fois, il les a jamais vus, les joueurs non plus.
Mais en revanche, aujourd'hui, depuis quelques années à Canal+ et tout ça, ils sont là pendant 5 minutes à vous détailler les statistiques et les machins et les ceci et cela. Et pendant ce temps-là, il se passe des trucs sur le terrain, vous savez pas qui a le ballon, qui passe à qui est le mec qui a réussi à dribbler l'autre mec, et ça c'est chiant parce que
des fois quand il y a des fois il gueule comme des fous, le ballon il est encore au milieu de terrain, il fait attention, il déborde sur l'aile, toi t'es en train d'aller te chercher une pizza à côté, t'es comme un con quoi.
C'est vrai qu'on a pas ça par exemple pour votre sport, Olivier, ça manque un commentateur qui saurait mettre le suspense, qui dirait oh là là, il est parti, 30 jours il va arriver.
Le mec il dort pas pendant 30 jours
quoi. On voudrait un commentateur précis comme Thierry Roland au tennis par exemple.
Oui.
Nadal, Federer.
Ouais, c'est vrai.
Ou alors au chess boxing, tu sais, un Thierry Roland au chess boxing. Uppercut, coup du berger.
ça nous manque tout ça, vous voyez. D'autres questions dans un instant avec Philippe Alfonsi en plus.
On va gêner, se poursuit sur Europe 1 jusqu'à 18h30 avec autour de Laurent Ruquier. Ce vendredi, il y a Philippe Alfonsi, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Isabelle Motreau, Titoff et Olivier de Kersauzon.
Philippe Alfonsi, vous auriez pu nous parler d'Henri Serrandour, figure de l'olympisme français qui est décédé, ancien champion de waterpolo. Tiens, par exemple, le waterpolo, voilà un sport qui est...
C'est un mélange.
C'est un mélange.
Entre le polo et les water, si tu veux.
Non, mais c'est vrai, ça a été inventé certainement de
c'est, ouais. Bah, c'est du handball et de la natation.
Voilà, mais d'ailleurs, c'est comme le polo. Du golf sur du à cheval, en quelque sorte.
Ou du cricket.
C'est des sports hybrides, tout ça. Hein. Mm. Le sumo, c'est un sport hybride aussi. Il suffit de voir les mecs. Non, je sais pas pourquoi. Philippe Alfonsi aurait pu nous parler d'Henri Serrandour, donc ex-champion de waterpolo, devenu président du Comité national olympique et sportif français. Vous auriez pu nous parler de Jacques No, ce chanteur décédé au début de semaine, le week-end dernier.
Ah oui, le copain de Médéros.
Voilà, le copain d'Élie Médéros. Et non, vous avez choisi. J'espère que vous allez faire court. Vous avez choisi.
Que vous connaissez pas.
Hein. Ah non,
mais c'est plus rigolo quand même.
Augustin Trébuchon.
Non. Alors là, écoutez bien, là, vraiment, je savais même pas qu'il était vivant, mais là, je savais pas qu'il était mort non plus, d'ailleurs. Vitaly Ginzburg. Physicien russe. Mais pourquoi vous en parlez de celui-là, alors?
Pourquoi? Bah, parce que, alors, pour deux raisons. D'abord, parce que, il avait une drôle de tête, ce Ginzburg. Il avait une tête de Mephisto, avec des yeux très brillants, des gros sourcils qui remontaient vers les temples. Il avait une tête très, très inquiétante. Pourtant, il avait rien de diabolique. Bien qu'il ait été quand même l'inventeur, enfin, un des pères de la bombe H soviétique.
Ah, quand même. Ah, bah, quand même.
Oui, quand même. Ah. Oui, mais enfin, pas plus diabolique que son copain Sakharov, hein, qui est devenu un célèbre dissident, et pas plus diabolique qu'Oppenheimer, l'américain. Bon. Donc, c'était l'époque où ils se faisaient tous embarquer à partir du moment où ils étaient un petit peu connus et qu'ils étaient bons physiciens. Ils se faisaient tous embarquer dans cette course à l'armement atomique. Bon, d'ailleurs, c'était pas plus mal parce qu'au fond, comme les Américains l'avaient et qu'ils l'avaient fait péter à Hiroshima, comme ils sont foutus sur la gueule avec les Russes tout de suite, il valait mieux au fond qu'il y ait les mêmes de l'autre côté. Ça appelle un équilibre, et on a appelé ça l'équilibre de la terreur, et c'est vrai que ça nous a garanti quelques décennies de paix armée.
Bah bon, finalement, c'est vrai que la guerre froide, c'était bien parce que ça évitait la guerre.
On l'a frôlé deux fois.
Le réchauffement de la planète.
En plus,
oui.
Il y a plus de guerre froide à cause du réchauffement de la planète d'ailleurs.
On l'a quand même. Oui, c'est vrai. Tu as raison. On l'a quand même frôlé deux fois à cause de ces conneries de nucléaire. Au moment de l'expédition de Suez, et puis ensuite au moment surtout des fusées de Cuba, là où ils étaient tous avec le bouton. D'ailleurs, je raconte juste une histoire. Vous savez comment ça s'est évité, cette histoire de ces deux fois, là où on a vraiment frôlé la guerre, on a frôlé
la guerre nucléaire.
C'est vrai que c'est les militaires et les savants qui ont convoqué les politiques, aussi bien à Moscou qu'à Washington, et qu'ils s'étaient fait un petit film sur l'hiver nucléaire. Vous savez, la fameuse hiver nucléaire qui serait provoquée par une guerre atomique. Bon. Et c'est en montrant ce petit film de prospective, si j'ose dire, ou d'anticipation, qu'ils ont quand même calmé les politiques. Parce que bizarrement, les militaires et les savants étaient moins excités que les politiques. Ils savaient, eux, ce que ça voulait dire que d'appuyer sur le bouton. Donc voilà, Ginsburg. Mais c'est pas pour ça que Ginsburg est connu. C'est pas pour ça du tout. Il s'est fait pardonner.
Alors, fallait le dire.
Il s'est fait pardonner.
On commence par là.
Bah non, parce qu'il a quand même participé quelque part à cet équilibre qui nous a garanti la paix. Mais non, il est connu parce que il s'est intéressé à un truc, alors vraiment, qui a déjà un nom à coucher dehors, qui s'appelle la supraconductivité. Et qui est cette capacité qu'ont certains matériaux à transmettre l'électricité sans aucune déperdition d'énergie.
Il y a eu Vitaly Ginsburg, il y a eu Claude François aussi.
Et ça, c'est des choses qui nous touchent directement parce que ça va permettre.
Ça
ouvre la porte à des nouvelles technologies extraordinaires qui vont permettre que nos téléphones portables, nos portables d'ordinateurs, etc., soient encore plus puissants. Et puis ça va permettre aussi de mettre un train à lévitation magnétique qui va se déplacer à une vitesse phénoménale sans toucher les rails. Voilà. Et ça, c'est grâce à ce monsieur qui a eu le prix Nobel en 2003 à cause de ses travaux sur la supraconductivité. Voilà. Donc, qui était ce monsieur Ginsburg?
Vitaly Ginsburg, physicien russe, décédé à l'âge de 93 ans. C'était l'hommage de la semaine de Philippe Alfonsi. Et la chanson que je vous propose maintenant, c'est « Viens me le dire ». JP Nata, vous vous souvenez? Il faisait partie des innocents, JP. Vous voyez qui c'est,
bien
non?
Sûr. Ouais, ouais, bah. Le blond, là.
Mais non.
Le blond,
il est chaud.
Avec la coupe afro, là.
Il est chaud. Son dernier album, Claire, vient de sortir. Sa nouvelle chanson, « Viens me le dire ».
Bon, on va se gêner.
Do, ré, mi, fa, si.
Do, ré, mi, fa, si. Liado.
Bonjour Serge Liado.
Salut Laurent, salut à tous.
Salut Serge.
Alors là, vous avez décidé, comme c'est la journée de la gentillesse, vous avez décidé de nous dire je t'aime.
Oui, j'avais envie de vous parler d'amour. En fait, j'ai tenté une expérience. On s'est récemment moqué du président de la République parce qu'il avait répété les mêmes mots dans deux discours à quelques mois d'intervalle. Et vous avez remarqué qu'on est beaucoup plus compréhensif.
Et hier même, il a répété 55 fois le mot France dans son discours. Les journalistes ont compté ça dans la presse.
C'est terrible.
Il aurait dit Belgique. Hein. Il aurait dit Belgique 55 fois. Ça aurait été inquiétant.
Enfin, ça c'est vrai en même temps.
Et à côté de ça, vous avez des chanteurs qui...
ces mecs.
À côté de ça, vous avez des chanteurs qui répètent « Je t'aime » à longueur de chansons et même à longueur de carrière. Et finalement, on s'en aperçoit pas ou ça passe plus facilement parce que la musique est différente selon les chansons. On prend l'exemple d'Aznavour. Ça fait 60 ans qu'il chante « Je t'aime » pratiquement dans toutes les chansons. Il a chanté de 1000 façons différentes.
Oh, pas toutes quand même. Là, vous parlez à quelqu'un qui a étudié la question.
Ah oui, je sais que vous avez étudié la question.
D'ailleurs, tiens, je vous signale qu'ils sont à Lyon demain soir. Toute la comédie musicale, je me voyais déjà. Je le dis parce que comme il y a un match de foot demain soir, c'est un peu compliqué pour les spectacles. Je peux vous dire qu'il y a
Moi, je suis déjà complet.
C'est vrai. Ouais. Combien il y a de places?
250.
Ah oui, nous, c'est 1500. Non, mais alors, demain soir à Lyon, justement, on pourra constater qu'il n'y a pas que des « Je t'aime » dans les chansons d'Aznavour. Mais vous en avez trouvé 22.
Oui, j'ai pris 22 chansons différentes. Oui, c'est quand même un mot très récurrent. Donc voilà, je vous fais un assortiment. Ça pourrait être une chanson qui s'appelle « Je t'aime » fait à partir des « Je t'aime » d'Aznavour.
C'est parti.
désormais ma voix ne dira plus je t'aime. Je t'aime.
Je t'aime.
Je t'aime. Je t'aime comme ça. Je t'aime. Je t'aime toi. Je t'aime.
Car je t'aime.
Que je t'aime.
Je t'aime.
Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Qui dit à te je t'aime.
Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime.
Je t'aime. Je t'aime. Oh, je t'aime. Ah, qui aime?
Je t'aime trop.
J'en déduis que je t'aime. J'en déduis que je t'aime.
Que je t'aime. Je t'aime.
C'est pas mal, Serge, j'aurais pu en avoir encore au moins.
Non, Serge, il a oublié le je t'aime de Brel dans Les Vieux Amants.
Mais, non, mais attends. C'est que Aznavour.
Ah bah dis donc, ah, il a oublié le Johnny Hallyday, le Dieu je t'aime.
Vous êtes con, Philippe.
Excusez-moi.
Il a oublié Lara Fabian.
Il a rien compris.
Je t'aime moi non plus. Là. Putain, Serge, tu déconnes.
Mais vous m'ouvrez des perspectives. Philippe a son silence. Ah non, mais écoutez,
c'est scandaleux.
Putain, mais c'est scandaleux. Dis-moi, vous n'étiez pas avec Isabelle.
Enfin, Stevie Alfonsi, qu'est-ce qui vous prend?
Mais les deux toxicos, la Motro Alfonsi, putain, mais vous êtes. Ils sont perchés les deux vendredi.
Non, mais vous auriez pu quand même.
Les junkies,
il y en avait au moins 50 chansons. Vous avez choisi 22, mais il y a bien plus que ça dans le répertoire d'Aznavour.
Oui,
je t'aime.
J'ai une petite discothèque, Laurent.
Mourir d'aimer aussi, évidemment, tout simplement.
S'il a pas chopé au moins la syphilis avec tout ça.
Il dit pas je t'aime dans Mourir d'aimer.
Il dit pas je t'aime dans Mourir d'aimer. C'est pas sûr.
T'as tout réécouté pour faire ça?
En tout cas, la chanson Idiote, je t'aime, je peux vous dire que Véronique Rivière et Pablo Villafranca la chantent, qu'elle est très jolie, cette chanson Idiote, je t'aime. On la connaît un peu moins que les autres.
Tu pourrais faire la même chose avec Titoff, je suis en retard à chaque émission. Pardon.
Salut.
Pardon, je suis en retard. Non, je suis en retard parce que je suis en retard.
Vous avez commencé. Je suis en retard. Ah,
parce que... Les motifs de retard.
Tiens, on devrait le faire, c'est vrai, ce best-of là.
Oui, c'est vrai.
En tout cas, merci. C'est l'occasion pour moi de rappeler que je voyais déjà toute la troupe de la comédie musicale avec les chansons d'Aznavour et à Lyon demain soir. Merci Serge. À tout de suite pour d'autres questions.
Humour, c'est amour, disait l'auteur Dominique Noguez. Et de l'amour, on vous en procure tous les après-midi sur Europe 1. Et maintenant, on parle culture également.
Europe 1, on va se gêner.
Le livre de la semaine.
L'homme qui voulait être heureux. C'est publié chez Anne Carrière. C'est écrit par Laurent Gounel. Et on nous dit sur un bandeau qu'a fait ajouter l'éditeur que c'est un incroyable succès grâce au bouche à oreille. Déjà traduit en 10 langues, lu dans 17 pays. Une perle en train de se transformer en phénomène. C'est un extrait d'une critique signée Paris Match. Laurent Gounel a donc écrit L'homme qui voulait être heureux. De quoi s'agit-il, puisqu'on parle beaucoup manifestement de ce roman? Est-ce vraiment un roman d'ailleurs, Isabelle Motreau, vous qui l'avez lu?
Alors, c'est la journée de la gentillesse, donc je vais pas dire ce que j'en pense vraiment. Non, non. Est-ce que c'est vraiment un roman? Non, justement, c'est pas vraiment un roman, parce que Laurent Gounel, il est spécialiste du développement personnel. Donc, vous savez, tous ces bouquins, comment être heureux, comment être sûr de soi, comment réussir en dealson, etc.
D'ailleurs, la pochette du livre, elle fait un peu...
Alors, c'est plus un manuel qu'un roman. On dit pas une pochette, on dit une couverture.
C'est vrai. J'imagine dans les émissions littéraires, vous avez lu le quatrième de pochette.
C'est pas un disque.
Donc il a comment dire, au lieu de faire un manuel habituel être heureux en dealson, il a fait ça sous forme de roman. Donc c'est l'histoire d'un type qui rencontre un sage et qui va lui apprendre avec quelques exercices pratiques à acquérir la patience,
l'ouverture aux autres,
enfin tous ces principes de base qu'on lit dans tous ces bouquins là. Alors, bah, quand on a envie de lire ce genre de truc de développement personnel, bon, bah, la forme est originale, donc voilà. Mais quand on a envie de lire un roman, c'est pas du tout.
Joujou. Est-ce que ça vous a transformé,
bah,
vous?
Non, pas franchement. Non, c'est. Bon, en fait, voilà, c'est un roman philosophique, mais c'est convenu, c'est niais, c'est.
Eh, on est deux là-bas.
C'est un roman philosophique, c'est écrit comme ça, sauf que c'est convenu, c'est niais, c'est mal écrit, c'est pas bien du tout, quoi. C'est
Se faire engueuler.
C'est pas que c'est mal. C'est pas que c'est mal écrit, c'est que c'est écrit.
Je vais plus les lire les bouquins.
Au fil de la plume, quoi.
Alors, allez-y, Joujou, terminez.
Non, voilà, c'est. Tu sais, quand en période de crise.
Quand mon Joujou parle, on l'écoute.
Mais sinon, je te raconterai à la maison ce soir.
Hein, non.
Sur... Tu vas voir ce que c'est un homme heureux.
Ah oui, j'aimerais bien.
Donc c'est un roman philosophique, ouais. Qui vous veut du bien. Alors quand c'est la crise, que tout va mal, que tout le monde est très malheureux, c'est plein de bonnes intentions et c'est plein de bons sentiments. Mmh. Voilà, sauf que c'est vraiment effectivement convenu, c'est niais, c'est mal écrit, c'est plein de clichés sur les forces de l'esprit, etc. C'est un peu Bouddha chez les Teletubbies, quoi. Le mec il est spécialiste du développement personnel. C'est-à-dire qu'en fait il aurait pu être coach chez Evelyne Thomas, tu vois, c'est un peu ça dans l'idée. Voilà, moi en tout cas ça m'a rendu malheureux de perdre 2 heures à le lire. Très honnêtement.
T'as mis 2 heures?
Ouais. Bah ouais, il y a quand même 220 pages. J'ai passé 2 heures dessus.
Parce que je l'ai interrompu à plusieurs reprises.
Ah oui, c'est ça.
Non, c'est vraiment pas bien.
T'as pris des notes et tout.
Alors,
c'est bien.
Bon, manifestement, c'est une grosse bêtise de vous avoir confié ce livre. Ouais. Philippe Alfonsi.
Ah, moi, je suis ravi d'avoir lu ce livre.
Pourquoi?
J'ai appris que pour marcher, il fallait mettre un pied devant l'autre. J'ai appris qu'on se sentait mieux quand on était bien dans sa peau, moins bien quand on était mal dans sa peau.
Et la confiance en soi.
J'ai appris que si on se trouvait beau, on avait du succès avec les filles. Ça, alors là, c'est à vérifier, mais enfin,
mais
j'ai appris
vrai,
ça.
Tu sais,
j'ai appris des tas de choses comme ça, passionnantes, formidables. En plus, tout ça habillé par la rencontre avec un vieux sage balinais qui parle comme un Parisien branché et un peu vulgaire.
Ouais, c'est vrai.
Et qui donne, mais c'est formidable, et qui donne des épreuves au mec qui vient le voir, comme rechercher des trucs sur Internet. Enfin, vous voyez, bon, c'est vraiment, vraiment passionnant.
C'est le comble, c'est avec vos critiques, ouais. Là, c'est que vous êtes en train de rendre un homme malheureux. C'est l'auteur du livre.
Mais c'est ça.
Voilà, si vous voulez, c'est un petit peu quoi. On pourrait dire une espèce de placebo intellectuel. Ça peut pas faire de mal. C'est comme un verre d'eau. Ou c'est le petit ami, ou c'est le cousin de l'éditrice, hein, parce que c'est pas possible.
Non,
c'est vendu comme des petits pains.
Non, mais les bouquins de développement personnel, ça fait un mal.
C'est vrai qu'en plus, c'est écrit gros. Comme ça, même.
Ça s'est déjà vendu à 85 000 exemplaires.
Oui, ça m'étonne pas
du tout.
Mais
ça fatigue pas.
Mais ça montre à quel point les gens sont dans une détresse profonde, quoi.
Ah oui.
Pour aller se réfugier là-dedans.
Ouais, mais ça, souvent les gens qui parlent comme tu parles, là, souvent, c'est que les gens, ils veulent, c'est des dépressifs, en fait.
Ouais, tu n'es pas bien dans ta peau.
C'est vrai que j'ai eu envie de me pendre en le lisant.
Non, mais là, tu fais style, ouais, les gens qui ont des problèmes, tout ça, tu te dédouanes de ça, mais en fait, tu ferais mieux de l'écouter, selon
moi. Je pense que tu es meilleur psy que Gérard Miller, en fait.
Bien sûr, ouais.
Fabrice, c'est Boué.
Qu'on va conseiller uniquement aux employés de France Télécom, peut-être.
C'est un livre qu'on se repasse pour dire, tiens, si tu n'es pas heureux, tente ça, quoi. En gros, c'est ça, c'est sûrement pour ça que ça se vend.
Oui, c'est ça.
Ceci dit, les articles, même les livres, souvent, les trucs sur la psychologie, moi, ça m'angoisse fortement. Parce que d'un coup, tu te rends compte que t'es pas normal, tu vois. Tant que tu le sais pas, tu t'en fous.
Pour être heureux, il faut être bête, égoïste et en bonne santé. Vous êtes d'accord avec ça, Olivier de Kersauzon?
J'ai pas perdu mon temps. Moi, pendant que vous lisiez ça, moi, je lisais un autre ouvrage et je le trouvais très bien.
C'est lequel?
C'est Un autre prince.
C'est quoi?
De Christian Stahl. Et c'est la vie d'Albert de Monaco.
Ah oui?
Et un portrait d'Albert de Monaco qui est fait sans trop de concessions et qui est assez émouvant, touchant et intéressant, contrairement à ce qu'on aurait pu croire au départ.
Ah bah voilà, c'est bien, ça vous nous donnait un conseil de lecture.
Oui,
donc.
Parce que ouais, vous verrez, c'est pas mal du tout. Je trouvais ça pas mal.
Il va être content, Laurent Gounel.
Monaco. Au moins, le prince de Monaco, ça sent pas la misère, quoi.
Ah, ça c'est sûr.
Que j'en ai marre des trucs qui sentent la misère, moi.
Et on parle de l'histoire avec l'hôtesse de l'air et tout dans le bouquin?
De tout.
Dites pas de saloperie sur mon père, ça va bien.
Hein. Vous parlez du prince Albert.
Bah ouais.
Vous êtes le fils caché du prince Albert.
Ah ouais, enfin, un des nombreux.
T'as le profil. Donc.
Il va se marier avec la nageuse.
Avec Charlène.
Bah, c'est dans le prochain tome qu'on le saura. Je pense, oui. Mais c'est assez marrant. C'est beaucoup plus subtil qu'on ne pourrait le penser. Jusqu'ici, on a eu des machins faits un peu rapidement ou que flatteurs. Là, c'est un regard. Ça présente un personnage qui n'est pas dénué de structure ni d'intérêt.
Bon, bah voilà, pour ceux que ça intéresse, on offrira donc le livre sur le prince Prince Albert de Monaco. Écrit...
C'est aux éditions du Rocher.
Éditions du Rocher. C'est vrai, c'est en plus.
Je suis pas sûr.
Laurent Ruquier sur Europe 1, on va se gêner.
7 jours sur 7.
Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va gêner avec Laurent Ruquier, avec tous ses complices. Je vous rappelle, vous êtes nombreux à nous le demander, que vous pouvez évidemment assister à l'émission en appelant le 3921 ou en allant sur europe1.fr.
Europe 1, on va se gêner.
Ciné.
Motro.
Pampan.
Bonjour Monique Pantel.
Bonjour, je t'aime Laurent.
Ah bon?
J'aime aussi la Motro.
Oh,
Jérémy, Olivier et les autres.
Ah bah c'est vraiment la journée de la gentillesse, ça y est.
Ah oui.
C'est parce que c'est la fin du monde.
Ah bon?
Il faut se dépêcher d'aimer tout le monde.
Ah oui, ah, vous avez vu le film 2012.
Et oui.
Qui n'est pas un film sur la présidentielle en France. Hein. C'est quoi ce film catastrophe? C'est réussi?
C'est une catastrophe, mais il faut pas le dire.
Ah bon?
Ah bon? Ben non. Parce que tout le monde y va, alors on a l'air trop con de dire le contraire. Tout le monde connaît l'histoire, c'est une prophétie maya montée en mayonnaise qui annonce la fin du monde pour 2012.
Et alors ?
Nous y sommes, dans le film en tout cas. On tient les héros, c'est une gentille petite famille bien propre, sauf la fille qui fait pipi encore au lit. Oh. Ils se disent tout le temps « I love you, je t'aime ». Et autour d'eux, le monde commence à craquer. C'est des tremblements de terre, des éruptions sans interruption. Et puis voilà, je raconterai pas la fin, parce que je suis pas vraiment restée jusqu'à la fin, et qu'il faut pas le dire, parce que les femmes seraient furieuses. Et ils sont très nombreux.
Alors le film marche, hein. Et la bande-annonce est efficace.
Ah ouais.
On a envie d'y aller.
Mais alors on a envie d'y aller pour deux raisons, je pense. Un, parce que les effets spéciaux quand même, malgré tout, l'histoire est très neuneux, très nunuche, très bébête, très cucu, très tout ce que vous voulez. Mais alors les effets spéciaux, franchement, Monique,
c'est ce qu'on demande dans ce genre de film. C'est ce qu'on demande.
Voilà. Alors ça marche du feu de Dieu.
Eh ben oui.
Ah, vraiment. Ça a fait un carton absolu aux États-Unis et en France, c'est déjà, au bout de 3 jours d'exploitation, en tête de tout le box-office.
Parlez-moi d'un autre film, un film français, Monique Pantel, un film de Xavier Giannoli. On en a dit le plus grand bien. Est-ce que c'est mérité? François Cluzet, Emmanuel De Vos, Gérard Depardieu dans À l'origine.
J'aime pas beaucoup les imposteurs.
Oui.
Ils m'emmerdent.
Oui.
Et celui-là, il est très bien, mais il est très ennuyeux.
Oh
et il est pas trop mal joué, mais il est très ennuyeux. Il vient dans un endroit de France, je me souviens plus où, c'est dans le Nord, je crois. Il voit dans la campagne une autoroute abandonnée, il se dit, tiens, je vais la reprendre. Alors il se met à faire des magouilles pour trouver de l'argent, j'ai rien compris aux magouilles, mais il trouve du pognon. Des ouvriers, des machines, ils trouvent de tout, et en plus, ils trouvent la mairesse du village.
Jouée par Emmanuel De Vos.
Elle est géniale, Emmanuel. Ouais. Ah, c'est pour elle qu'il faut voir le film. Elle est formidable.
Non, moi, je trouve que il n'y a pas que pour elle qu'il faut voir le film. L'histoire est vraiment extraordinaire, d'autant que c'est une histoire vraie. Alors, attends, ce type qui construit une autoroute au milieu de rien et qui finalement va se prendre au jeu parce qu'il ne peut plus lâcher les gens à qui il a redonné du boulot, le goût de vivre, etc.
Qui ne lui en veulent pas, d'ailleurs, à cet escroc.
Et finalement, qui ne lui en veulent pas. Moi, je trouve que c'est une histoire vraiment intéressante.
Mais elle consiste en quoi, l'escroquerie?
L'escroquerie, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'autoroute à construire. C'est lui qui a redémarré un chantier qui, en fait, était voué à rester.
L'argent, qui donne l'argent.
Ah bah je peux pas te raconter, ça c'est le cœur du comment il fait pour s'en sortir.
Jours, ça s'appelle pas une escroquerie.
Ça marche ça ou pas?
Alors ça marche moyennement, mais à mon avis ça va marcher un petit peu mieux ce week-end. D'abord parce que 2012, bon,
l'année du blues.
Non mais les gens se sont précipités, donc il va peut-être y avoir un peu de place pour les autres. Et puis je pense que c'est un film qui a marché sur le bouche à l'oreille.
Le bouche à l'oreille.
C'est mignon ça.
Ouais, après tu fais chier avec la
bouche à l'oreille, dis donc.
Et alors 13h, le film inachevé de Claude Berry avec Mathilde Seigné et Alain Chabat. Qu'est-ce que ça vaut ça?
Voilà. Aurait mieux fait de ne pas le finir, d'abord parce qu'il est mort en route, et vraiment si on n'aime pas les chiens, il ne faut pas les... et même si on aime les chiens, il ne faut pas voir ce film.
Parce que Trésor, c'est le nom du chien de Mathilde Seigné.
Mais il est odieux, c'est un sale con.
Le chien
il pète tout le temps, et quand il ne pète pas, il rôte, il est dégueulasse. Et ça ne fait rien, Mathilde Seigné est folle de lui. Elle lui achète de l'entrecôte, c'est dégueulasse, moi j'aime pas les chiens d'abord, mais enfin donner de l'entrecôte alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim,
Film Monique, hein. T'es au courant que ce que tu vas voir c'est pas vrai à chaque fois.
Mais ça me met quand même, j'ai bien le droit d'avoir une opinion, merde.
Donner de l'entrecôte alors que c'est meilleur la côte de bœuf, quoi, tu vois.
Bon ben alors ça, c'est rigolo ou pas?
Pour moi pas du tout.
Isabelle Motron ne l'a pas vu, mais est-ce que ça marche?
Alors ça marche pas mal, ouais. C'est la troisième sortie du box-office.
Populaire, hein, Alain Chabat et Mathilde Seigné.
Bah oui, ça fait une belle affiche.
On a envie d'aller voir Trésor, le dernier film de Claude Berry. Les vies privées de Pippa Lee. De quoi s'agit-il?
Eh ben, Pippa Lee, c'est donc une emmerdeuse, Robin Wright Penn, qui est très mignonne, mais elle est tout le temps en train de se plaindre. Ce film m'a fait l'effet d'un puissant somnifère.
Ah oui?
Oui, elle est jouée, pardon, Robin Wright Penn. Elle a tout pour elle, sauf qu'elle s'emmerde et nous emmerde. Je dormais à bois fermé quand tout d'un coup un coup de feu m'a réveillé. Dieu merci, c'était Monica Bellucci qui se faisait péter la tête parce que l'autre lui avait piqué son Jules.
Ah, parce qu'il y a quand même un beau casting, hein. Monica Bellucci, Keanu Reeves, entre autres. Mais bon, alors ça vaut pas le déplacement.
C'est la fin du monde.
Et de moi, j'ai vu un très beau film.
Ah, quand même. Mais attendez, juste un mot quand même sur Les vies privées de Pippa Lee.
Ça marche pas très très bien, Les vies privées de Pippa Lee.
Alors, le très beau film, est-ce que c'est L'Imaginarium du docteur Parnassus?
Mais qu'est-ce qui me connaît bien, celui-là?
Il restait plus que celui-là en même temps, hein.
Non, moi j'en ai un dont je veux parler.
Donc, ce film est un miracle. C'est le plus beau que j'ai vu depuis longtemps. Dans sa roulotte magique qu'il promène de ville en ville, le docteur Parnassus, qui est joué par, je crois, Christopher Plummer, il fait venir l'imagination des gens.
Tu prends ton temps, tu vois ce qui revient, ça va le faire.
C'est drôlement bien. Mais il a passé un pacte avec le diable pour devenir immortel, mais à une condition très mauvaise. Le diable prendra son premier nez quand elle aura 16 ans.
C'est un film aussi avec un casting incroyable, parce qu'il y a Heath Ledger, le fameux comédien qui est là, s'est suicidé, mort, et qui est mort, en tout cas, on ne sait pas exactement.
Il tourne encore beaucoup de films, il sort un film tous les mois.
C'est vrai, on se dit qu'il a tourné beaucoup de films avant de mourir, et en tout cas, il est dans ce film Heath Ledger. Il y a aussi Johnny Depp, Colin Farrell, Jude Law, c'est quand même un casting.
Et qui joue son rôle, ils sont quatre pour jouer son rôle, ils sont tous les quatre sublimes.
Oui, parce qu'en fait, c'est pour ça, c'est qu'il est mort sur le tournage de ce film, ce sont les autres qui ont repris le rôle.
Mais il fallait le réussir, ça. Et c'est magnifique.
L'imaginarium du docteur Parnassus, Isabelle.
C'est une performance, surtout l'image. Tu parles pas de l'image.
C'est pas une performance, c'est un très beau film.
Ça y est, elle est repartie. Mais qu'est-ce qu'il y a?
Il serait peut-être temps que ton mari éjacule, là, parce que c'est long, hein.
Oh non, pas ça, Fabrice.
Il a rien dit,
Monique.
Il dit qu'il vous aime, c'est la journée de la gentillesse. Il vous aime beaucoup.
Mais s'il m'aime pas, tant pis.
Si, vous aime.
Donc ça marche très bien. C'est la deuxième sortie de la semaine. Attends, moi je voulais parler d'un film aussi.
Lequel?
L'Enfer de Clouseau.
Je vais aller voir ça. Oui.
Alors évidemment, c'est un film qui est quand même sur le cinéma, sur un tournage particulier. C'est un documentaire qui a été un petit peu reconstitué parce que c'est un film que Clouseau n'a pas terminé. Il a eu une attaque, une crise cardiaque.
Il y avait Romy Schneider sur le tournage.
Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a eu un financement de folie, mais comme personne. Jamais eu un budget illimité, ce qui est quand même un cas exceptionnel dans l'histoire du cinéma. Et avec ce budget illimité, Clouseau a fait faire des essais totalement hallucinants, avec des pellicules retravaillées, des lumières stroboscopiques, des trucs mais incroyables, et ça donne des images complètement stupéfiantes, quoi. Et c'est le cas de le dire, parce qu'on a vraiment l'impression de trucs...
Ça mérite.
Ah oui, ça mérite d'aller le voir.
Pour ceux qui s'intéressent au cinéma.
Pour ceux qui s'intéressent au cinéma. En plus, l'histoire de la reconstitution du film est assez marrante aussi. Je vous la raconte pas, mais elle est assez captivante.
Bon, pour résumer, vous allez forcément aller voir par curiosité ce week-end 2012, un film catastrophe qu'on peut voir en famille, ça fait peur. Et puis surtout, les effets spéciaux sont réussis. Maintenant, bon voilà, faut pas en demander plus ce genre de film. Mais le deuxième film que vous conseillez toutes les deux, manifestement, c'est L'Imaginarium du docteur Parnassus. On peut-être oublier Trésor, et puis quand même le film avec François Cluzet et Emmanuel Devos à l'origine est conseillé par Isabelle Motreau. C'est un film de Xavier Giannoli. L'invité d'honneur est déjà dans la loge d'honneur. Il va s'agir pour vous de l'identifier dans un instant après les titres de 18h.
À tout de suite, Richard Laurent. Le suspense demeure, tout juste 18h sur Europe 1.
Europe 1, on va se gêner.
Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur ?
Bonjour, invité d'honneur, vous nous entendez?
Oui, je vous entends.
Ah, la voix est déformée.
C'est une femme.
Vous croyez que c'est une femme?
Non, c'est un homme, comme d'habitude.
Moi. Alors, c'est une femme.
Est-ce que vous êtes une femme ou un homme?
Je suis une femme.
Première femme de l'année.
On a eu Michel Larocque, on a eu Chantal Goya, on a eu Macha Merrill. Alors quand même.
Première femme non ménopausée de l'année.
Sarah Forestier.
Laurie, on a eu.
On en a eu des tas de femmes ici quand même. Ouais. Franchement, faut pas déconner. Non, bah là, effectivement, il s'agit aujourd'hui de notre première femme de la semaine. Ça, je vous l'accorde.
Ah. Du mois.
Alors, est-ce que, chère femme de la semaine, vous êtes une artiste?
Oui,
souvent, c'est le concept de l'émission.
Oui. On invite des gens qui viennent prendre. Non, on invite aussi des hommes politiques.
C'est rarement
ou des
le brigadier
politiques.
Du coin.
Je suis désolée.
Je sais pas si tu as remarqué.
L'îlotier du 8e, il est rarement là dans sa bande.
Nous avons eu des hommes et des femmes politiques. Mais je vois que vous n'écoutez pas l'émission.
Bah non.
Alors donc, vous êtes une artiste. Vous chantez?
Oui.
Ah, là, on va vite, on gagne du temps. Et effectivement, c'est... madame ou mademoiselle chante.
Mais c'est votre activité principale, le chant, ou vous faites aussi d'autres choses?
C'est mon activité principale, mais je touche à d'autres choses.
Vous touchez à d'autres choses, alors donc, comme quoi, par exemple?
Ah bah, ça
va le dire.
Est-ce que vous sortez des jeux de télé-réalité, enfin, Starac ou Nouvelle Star, ou ce genre de choses?
Non.
Non, mais on vous voit aux Enfoirés, en revanche.
Oui.
Ça limite.
Depuis 2 ans?
Non.
Est-ce que
depuis
vous aurez 10 ans, est-ce que pour 10 ans un soir vous aurez un siège plus haut que les autres autour de la table?
Est-ce qu'on pourrait être de la même famille?
Vous pensez à Mimi Mati? Est-ce que vous êtes Mimi Mati? Mais c'est vrai que Mimi Mati chante aussi et qu'elle fait d'autres choses.
Hier, il y avait Pascal Obispo, vous le connaissez bien?
Oui.
C'est vrai?
Vous avez déjà travaillé avec lui?
Non.
Est-ce que quand vous dites vous faites autre chose, c'est-à-dire vous écrivez pour les autres aussi des paroles?
Oui.
Est-ce que vous avez écrit un spectacle, une sorte de comédie musicale?
Non.
Vous avez vendu beaucoup de disques?
Ça va.
Ça va, vous crevez pas de faim, quoi. Ça va.
Ça va. C'est mon activité principale.
Est-ce que vous avez repris déjà des chansons?
Non.
Non?
Vous chantez quoi, de la variété française?
Oui.
J'ai peut-être un premier indice musical, ou sonore, en tout cas, à vous proposer.
J'ai trouvé.
C'est le générique d'un dessin animé, oui.
Vous êtes Dorothée?
Non. C'est un générique de dessin animé, mais c'est pas ma voix.
Mais c'est vous qui chantez?
Non.
Vous avez écrit les paroles?
Non.
Bah, on nous a dit que c'était vous qui chantiez?
Bah, non, pas sur celle-là.
Alors.
Pas sur celle-là, mais vous avez fait d'autres génériques de dessin animé.
Celui-ci n'est pas cette chanson-là.
Alors voilà. D'accord. C'est pas vous qui chantez cette chanson-là, mais vous avez chanté pour ce feuilleton.
Tout à fait.
C'est quoi ce feuilleton?
On s'en fout, personne le connaît.
C'est Princesse
Sarah? Oui, c'est vrai. C'est pour les petits.
Vous êtes française?
Oui.
Excusez-moi, c'est indiscret. Vous avez plus de 50 ans?
Non.
J'ai un indice.
Plus de 70?
Non plus.
Ouais, je peux peut-être aller voir.
Vous allez aller voir dans quelques minutes, Olivier, mais d'abord, un premier indice qui va sûrement vous mettre sur la voie, cher Olivier.
Mais moi, je trouverai jamais, de toute façon.
À 13 ans, elle a enregistré un titre écrit par Lenny Kravitz.
Mais c'est Vanessa Paradis?
Est-ce que vous êtes Vanessa Paradis?
Non.
Moi j'ai trouvé.
Est-ce que vous
êtes blonde?
Non, tu trouves pas.
Oui.
Et on vous voit souvent. J'ai pas trouvé.
Voilà.
J'ai niqué l'épaule. J'ai pas trouvé. Ça serait bien qu'Olivier aille voir dans la loge. Ah, je me demande qui ça peut être.
Olivier de Kersauzon veut pas qu'on trouve trop tôt parce qu'il veut aller cloper.
Voilà. Est-ce que vous venez de l'île de Beauté? Vous êtes corse?
Non,
elle n'est pas corse. Et dans un instant, après quelques publicités, vous pourrez poser d'autres questions et on demandera à Olivier de Kersauzon s'il peut nous décrire notre invité d'honneur.
On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier
jusqu'à 18h30.
On retrouve Laurent Ruquier et son invité mystère sur Europe 1.
Europe 1, on va se gêner.
Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur?
Olivier de Kersauzon, vous êtes prêt de notre invité?
Pas encore.
Il faut dire que c'est très loin.
Ah, ça y est alors. Pouvez-vous nous la décrire, puisqu'on sait que c'est une femme? C'est bien une femme d'abord.
Vérifie bien.
Les cheveux clairs.
Ouais.
Un regard pétillant et noir.
Ouais.
Une belle silhouette.
Oui.
Et jeune.
Jeune. Vous la connaissiez?
Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une femme jeune ici.
Tu m'étonnes.
Vous êtes blonde, vous êtes blonde?
Oui.
Vincent McDoom?
Non, elle est charmante.
Vous la connaissiez, vous, Olivier?
Oui.
Et vous êtes capable de me fredonner quelque chose qu'elle chante?
Non, parce que c'est trop enroué, je risquerais de massacrer ses textes.
Olivier, tu peux nous dire sa poitrine, qu'est-ce que c'est à peu près, 95, 90?
Vous me gênez.
Elle a des collants ou des bas? Vas-y, vas-y, continue, Olivier.
Elle a des cheveux longs.
Continue, ouais. Olivier, continue.
Au niveau olfactif, elle est plus en période d'ovulation ou pas?
Elle a un pantalon qui est assez moulant.
Mais là, mais il a raison, hein.
Quelle horreur!
Mais oui, mais son père est gynéco, je le rappelle.
Non, elle est pas mal, hein.
Ah ouais, ouais, ouais. Bon, alors, Joujou a une idée.
Ah, moi je sais, j'ai trouvé.
Autour de la table, je vais quand même essayer qu'un deuxième trouve le nom de notre invité, puisque Jérémy Michalak, je pense, a la réponse. Peut-être que cet indice sonore va vous mettre sur la voie. Pour Jérémy, en tout cas, c'est une confirmation.
C'est un générique, ça. Hein.
C'est un générique.
C'est vous qui chantiez, là?
Oui, j'ai chanté la bouche fermée.
Il est con.
C'est générique de quoi?
Ah, c'est générique d'une émission.
Je peux vous dire une chose, quand même, qui va peut-être vous aider, c'est qu'elle a une vraie voix. Hein.
Ah oui, oui, elle a une vraie voix.
Elle a une vraie voix, elle a un vrai tonus.
Et peut-être, alors, si je passe ce troisième indice sonore,
est-ce
là...
Est-ce qu'elle est déjà vue dans cette émission?
Non, jamais. Écoutez ça.
Il est venu le temps des
cathédrales. Ah oui, je sais comment ça s'appelle. Ah, c'est l'autre là.
C'est Garou.
Mais non, c'est une chanteuse.
Julie Pietri.
Non,
mais non, l'autre.
Julie Pietri.
Mais non, mais pas loin.
Bon, alors là, déjà, quand même, hein, ça devrait aider.
C'est l'autre, là, qui marche plus du tout, là. Celle qui marche plus du tout, là.
C'est celle qui va pas venir.
Il est con, Fabrice.
Elle va faire demi-tour avant l'entrée du studio.
Ah non, alors écoutez, on va l'écouter chanter, elle, peut-être. Allez. Ça va vous donner. Je crois que Jérémy, quand même,
a moi, j'ai trouvé depuis un quart d'heure.
Oui, alors, bah, dites-le, alors.
C'est Julie Zenati.
Julie Zenati, bonne réponse.
Julie Pietri.
Julie Zenati qui va nous rejoindre dans ce studio. Julie Zenati qui publie un livre, son journal, le journal de Julie Z, et qu'on voit effectivement dans une émission en ce moment. Moi, je suis déjà tombé dessus sur W9.
X-Factor.
X-Factor, c'est le générique de cette émission qu'on a entendu tout à l'heure. La voici, Julie Zenati. Fleur de Lys. C'est vrai que Fleur de Lys a marqué les esprits pendant quand même quelques années et on a entendu Garou chanter Le Temps des Cathédrales.
Oh, c'était Bruno Pelletier.
C'était Bruno Pelletier, lui?
C'était vieux, il y a 10 ans.
Ah bah oui, et pourtant Dieu sait qu'on a entendu cette chanson. Hein.
Ouais.
Ils étaient les trois à la chanter, alors comment ça se passait?
Non, c'est Belle, les trois.
Ah, c'est ça, on a tellement entendu toutes ces chansons, on a déjà oublié.
Super voix, je les ai natifs.
Ah bah oui, bah, tenez, écoutez, là on est sûr que c'est elle et c'est avec Patrick Fiori. Ça reste un bon souvenir quand même, cette comédie musicale Notre-Dame de Paris.
Ah bah oui, surtout.
Ouais. Je l'aime beaucoup. Moi.
Ah ouais. Vous l'aviez vu la comédie musicale?
Ah non, il faut pas que j'aille. Attendez. À un moment d'ailleurs, j'étais content d'être en Australie parce que c'était le seul endroit où on les entendait pas.
Vous avez beaucoup tourné, vous, parce que certains ont fait la tournée, d'autres pas. Il y a eu plusieurs équipes quand même. On fait Notre-Dame de Paris. Il y a eu la version à Montréal aussi.
Non, c'était nous aussi à Montréal.
Vous aussi.
En fait, les deux ans, les deux premières années, c'était les sept.
Combien de fois alors vous avez fait la comédie musicale?
Oh bah je sais pas, 400.
400 fois. Ah oui, quand même, c'est pas rien.
Bon. Et c'était la même chose à chaque fois.
Eh ouais. Non, toujours pareil.
Non, parfois, ils faisaient Notre-Dame de Lorette plutôt que. Julie Zenati, on la voit en ce moment sur la chaîne W9. Moi, je vous ai vu dans cette émission. Il y a aussi, comment il s'appelle, Céron, hein, c'est ça.
Il est méchant, Marc Céron, dans l'émission.
Marc Céron.
Pas sympa. Hein.
Alain Lanty, lui, qui est au piano. Plutôt émouvant, Alain, avec,
un très bon pianiste,
avec
très
jeunes, les jeunes femmes qui passent devant lui. Alors,
il est facilement ému, Laurent, en ce moment. Les pianistes, le dernier mort de la guerre de 14. Il est très fragilisé par l'émotion en ce moment.
Dans un instant, nous allons parler avec
c'est
Julie.
C'est à cause du Stérimar, ça lui fait couler les larmes facilement.
Nous allons parler avec Julie Zenati de son livre, Le Journal de Julie Z. Z, pourquoi c'est pas le journal?
Il n'y a pas assez de place pour écrire Zenati.
C'est comme pour Zorro finalement.
Bah, c'est ça.
Voilà. Il fallait pas user trop l'épée. On se retrouve dans un instant après la pub.
À
8 mois de l'Afrique du Sud, le destin mondial de l'équipe de France se joue face à la République d'Irlande. République d'Irlande-France, demain au Croke Park Stadium de Dublin. France-République d'Irlande, mercredi prochain au Stade de France.
Les deux matchs barrages que les Bleus devront forcer. Sur Europe 1, dispositif exceptionnel. De la causerie d'avant-match jusqu'au débriefing, le destin mondial de l'équipe de France se jouera demain dès 18h30 sur Europe 1, premier supporter des Bleus.
Europe 1, bien entendu.
Groupama, c'est aussi une banque.
Bonjour, c'est Cerise de Groupama Banque.
Ah bonjour Cerise, c'est Monsieur Voyageur à l'appareil.
Monsieur Voyageur, vous m'appelez d'où là ?
Eh bien je suis en Grèce.
Je peux vous aider ?
Ah oui, je cherche un distributeur pour retirer de l'argent. Alors vous connaissez une banque qui ne prenne pas trop de frais ?
Mais où est le problème ? Avec votre carte bancaire Groupama Banque, tous vos retraits en euros sont gratuits.
Attendez, vous avez dit gratuit ?
La banque de Groupama est depuis 3 ans reconnue par la presse comme l'une des banques les moins chères du marché.
Ah bah c'est bien ça, mais si je vais en Espagne ?
Même chose, les retraits en euros sont gratuits dans toute l'Union Européenne.
Dans toute l'Union Européenne ? Mais c'est le Pérou ! C'est le Pérou ! Le Pérou !
Groupama, c'est aussi une banque.
Toujours là pour moi.
Votre assureur est intermédiaire en opération de banque de Groupama Banque.
Demain, dans le Figaro Magazine, l'au-delà à l'épreuve de la science. Ils ont cru mourir et ils témoignent. Un tunnel, une lumière éblouissante, le sentiment de flotter au-dessus de leur corps. Réalité, illusion, les meilleurs spécialistes de la médecine et des neurosciences répondent. Un passionnant voyage aux frontières de l'inconnu, demain, dans le Figaro Magazine, chez votre marchand de journaux.
Harvey.
Mike.
Toujours trader chez Goldman Finch.
Et toi, toujours à la Sylvan Partners.
Non, parti chez Volkswagen. Là-bas, on touche encore des primes et des bonus, alors...
Et sur quel produit ?
La nouvelle Polo. Bonus écologique et prime Volkswagen de 1000 euros doublés.
Ah ouais.
Viens aux portes ouvertes du 22 novembre, je vais te présenter.
Oh.
Non.
Ah.
En novembre, la nouvelle Polo 1 litre de 60 chevaux est à 9 990 euros, prime Volkswagen 8-10 ans de 1000 euros doublés déduites. Profitez aussi du bonus écologique de 200 euros jusqu'à la fin de l'année. Portes ouvertes le 22 novembre. Conditions sur Volkswagen.fr.
Retour dans la loge d'honneur d'Europe 1 avec Laurent Ruquier.
Avec Julie Zenati, notre invitée d'honneur, j'aimerais qu'on revienne sur quelques indices que j'ai donnés. D'abord, est-ce que c'est vrai qu'à 13 ans, vous avez eu la chance de pouvoir enregistrer à Londres un titre de Lenny Kravitz ?
Oui.
C'est quoi cette histoire ?
Ben, tout simplement, je chantais en vacances un grand karaoké, machin, je m'amusais beaucoup. Et puis un mec de maison de disques s'est approché de mes parents, j'en serais super qu'elle fasse un disque. Et puis je me suis retrouvée à Londres à chanter...
C'est une bonne technique ça.
Voilà.
Il n'est pas devenu ministre de la culture,
Et voilà, je me suis retrouvée à Londres à chanter deux titres de Lenny Kravitz et voilà, avec surtout.
Et puis, je trouve que ce qui vous a vraiment fait connaître, c'est effectivement Notre-Dame.
La littérature.
Notre-Dame de Paris. Ça. Ah non, ça c'est votre. Alors, c'est le journal. C'est une demande ou c'était un besoin, une volonté
Ça a été une proposition, en fait.
D'éditeur
Une proposition d'éditeur.
Toujours le même, celui qui avait parlé à tes parents.
Toujours le même. Bah, il a d'abord appelé ma mère, savoir si je pouvais écrire mon histoire et raconter les trucs de Notre-Dame. Surtout, en fait, c'était une rencontre et ça m'a amené à...
Oui, vous décrivez un peu les coulisses, quoi.
Tout le cheminement, en fait, pour arriver jusqu'à la musique, parce que finalement, j'ai commencé hyper jeune et...
Ah.
Tu es encore jeune et belle.
Je voulais dire très, oui, elle a commencé très jeune.
J'avais 16 ans.
C'était quoi, mais je vois que c'est le concert, pardon.
Allez-y,
vous en déjà le concert, tu chantais en anglais...
New York,
ah, c'est extraordinaire. Tout le monde voit ça. C'est du niveau, c'est au-dessus même du niveau de plein de chanteuses américaines. Vraiment.
Bah voyez,
il y a pas de vanne, hein, c'est la vérité. C'est vraiment
un beau compliment de Titoff. Moi, je m'aperçois que le journal n'est pas en chronologique, en fait, que les dates se mélangent. Comment ça se fait ?
Si, non. Ce qui est, enfin, il y a. En fait, on s'est revus tous les sets. Pour nos 10 ans, donc l'année dernière, on a fait un dîner. Je suis partie de ce dîner-là que j'entrecoupe avec plein d'anecdotes de Notre-Dame et c'est chronologique.
Alors les 7, c'est qui alors, par exemple ?
Ah oui, les 7, c'est... Oui, c'est
Isabelle ça. Aussi, hier soir, elle a fait un dîner, mais elle ne se rappelle plus de rien. Hein.
Alors les 7, alors il y a Hachoum.
Hachoum, Grincheux... Alors,
Isabelle, tu te rappelles des 7 ou pas, toi ?
Patrick Fiori.
Alors, Patrick Fiori, Hélène Ségara.
Je connais.
Garou.
Je connais.
Bruno Pelletier. Luc Merville. Et Daniel Lavoie.
Je te change.
Alors, c'est sympa quand vous voyez.
Oui, non, c'était assez magique parce qu'on a vécu un truc extraordinaire il y a 10 ans et c'est grâce à ça aujourd'hui qu'on est tous chanteurs et que finalement on continue à vivre de notre métier, j'ai envie de dire. Je sais pas.
Grâce à ça, oui.
Est-ce que le fait de chanter, ça donne envie de se faire inséminer artificiellement?
Pourquoi vous demandez ça?
Il y a beaucoup de chanteuses qui se font inséminer artificiellement en ce moment. Et ça marche pas. Je voudrais savoir si Non, ça m'intéresse comme ça.
Vous proposez votre semence.
Ah non, pas du tout. Non, non, non.
C'est
non,
le
non,
fameux jus à pépère.
Non, 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 elle ira chercher au Canada un morceau. Mais je voulais savoir si,
un morceau,
si psychologiquement, le fait de chanter.
Oui, donc pas de rapport sexuel, c'est ça. Si on chante, on fait pas.
Voilà.
A priori, non. J'en suis pas encore là. Peut-être que je suis encore un peu jeune.
Et puis, non, c'était tout. C'était tout. Moi, je la trouve charmante, intelligente, vive. Elle se prend pas au sérieux.
Et si vous connaissez pas bien les chansons de Julie Zenati, en voici un petit aperçu.
Je les connais pas bien, moi. Attends, je peux te la fredonner dès que le disque est fini.
Je voudrais que tu m'en consoles. Ça vous dit quelque chose, ça?
Oui, c'est...
Si je m'en sors, ça vous dit quelque chose, ça?
Non, moi, j'aime beaucoup la fin, par contre.
La vie fait ce qu'elle veut, Julie Zenati.
Moi, je suis une princesse, la reine de ma rue. Oui, je suis une princesse, ennemie du temps perdu. Une femme à la recherche.
Zenati, la chanteuse Julie Zenati, l'invitée d'honneur de Laurent Ruquier sur Europe 1. Vous restez avec nous, on marque une pause. On les retrouve juste après. À tout de suite. Retour dans la loge d'honneur d'Europe 1. On retrouve Laurent Ruquier avec son invité du jour.
Julie Zenati est notre invitée d'honneur. Oui, Olivier, maintenant, vous savez qui est vraiment Julie
je
Zenati.
Je savais déjà.
Tu parles.
J'étais stupéfait de vous voir au bord des larmes.
Vous avez entendu un peu les chansons. Mais elle a quand même une vraie jolie voix, ça, on peut pas le nier.
Magnifique jolie voix.
Hein, franchement.
Est-ce que vous chantez dans les bois?
Est-ce que je chante dans les bois?
Moi, je pensais pour le Noël de Jean-Pierre Trébert.
Une petite chorale,
ça,
là,
petite chorale, ça lui ferait plaisir.
Je vais voir avec mon agent si j'ai des disponibilités.
Ah oui, au pied de l'arbre.
C'est ça.
Dans la boîte.
Très bien.
C'est vrai que dans le cadre de la politique d'identité nationale d'Éric Besson, on demande à chaque fois qu'on a un chanteur de chanter l'hymne français. Si tu pourrais le faire, si tu pouvais le faire, là, ça nous.
Parce que si tu pourrais le faire, vous êtes expulsé, vous.
Tu vas pas rester longtemps.
Tout le monde m'a chambré avec la pochette, mais ça a été un festival.
J'ai grandi au Cameroun, moi, ça va.
Est-ce que vous êtes une chanteuse de la Marseillaise, Julie Zenati?
Je n'ai jamais chanté la Marseillaise.
C'est pas pourquoi?
Ah bah voilà.
Pourquoi? Parce que je ne fais pas de foot. Je sais pas. Je sais pas.
Elle n'a pas eu l'occasion.
Non, voilà.
Alors, dans le cadre de notre grand débat sur l'identité nationale, c'est Slimy l'a fait.
Slimy l'a fait. Bah si. Qu'est-ce qu'on n'est pas triote ici?
La France, tu l'aimes ou tu la quittes?
Alors, allons-y. La Marseillaise par Julie Zenati.
Ah ouais. Ok. Comme ça.
Je voudrais que tu mettes ta main sur le cœur et pendant que tu chantes, tu penses à Augustin Trébuchon.
Elle est dédicace à Trébuchon.
Qu'est-ce qu'ils sont cons, alors? Alors, attention, Julie, on va vous aider, évidemment.
Oui, vous m'aidez un peu pour le texte, en fait, c'est ça?
Évidemment. Un, alors. Deux, trois.
Aux armes, citoyens, un aile et bataillon, partons, marchons, marchons,
Vive la France, vive le général de Gaulle.
Vive la France.
Rendez-moi le livre de Julie Z.
Voilà.
Alors franchement là, c'est.
Non mais
il y en a qu'un pour. Il y en a qu'un pour sept.
Elle est
écrit en braille. Sur son nom est écrit en braille.
C'est vrai ça. Pourquoi c'est en relief sur la couverture?
Parce que c'est préfacé par Gilbert M.
Sur la pochette du livre. C'est...
Parce que c'est pour avoir le plaisir de toucher.
C'est pour que les aveugles puissent se branler aussi. Oh
j'attendais. Hein. Je l'attendais.
Oh là 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 là.
Il y avait longtemps.
On va s'aimer sur l'étoile sur la l'oreiller. On va grenier. Je veux découvrir.
On croit toujours qu'on a touché le fond, puis.
Jamais. Avec lui, tu peux encore.
Je suis désolé, Julie Zenati. Je dis même plus mon nom. Je fais comme vous, moi. C'est Laurent R qui anime cette émission. Ne répétez pas mon nom.
Je serai discret.
Le journal de Julie Z, c'est pour vos fans, évidemment, avant tout, ce livre qui retrace quand même aussi un peu manifestement la belle histoire de Fleur de Lys et de Notre-Dame de Paris jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à cette émission de télé réalité sur sur
X. Non, ça va pas jusque là.
Ça va pas jusque là.
Vous l'avez pas lu, en fait.
Bah non, faut pas déconner quand même.
Pourtant, c'est écrit gros. C'est pourtant écrit très gros.
Faut pas trop m'en demander, Julie, quand même.
Ah bah, je suis désolée, Laurent.
J'écoute vos chansons, si en plus.
Oui, faut pas déconner, non plus, c'est vrai.
J'écoute les chansons, si en plus, faut que je lise les livres des chanteuses. Alors merde, alors on est mal barré.
On est mal barré, là, quand même. Bah, la prochaine fois, je vous ferai un livre photo.
Tiens, fais-lui l'appareil photo qu'on a pas fait gagner, là.
C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de photos.
Bah, il n'y a pas de photos. Bah, en fait.
Alors,
c'est un vrai livre avec des vrais mots.
Sur la pochette.
C'est un peu dommage quand même.
Ah oui, c'est ballot. Hein.
Ça veut dire que vous écrivez vraiment votre journal tous les jours?
Ou il y a un blanc qui écrit à ta place?
Non, j'ai dû puiser dans les souvenirs et aller chercher des choses.
Mais il y a vraiment des trucs très très intimes.
Non, il y a. Enfin, oui, un point de vue et donc forcément il y a un peu d'intimité, mais ça reste assez pudique.
Mais c'est un exercice que vous avez accepté pour l'éditeur Marc Page. Mais vous ne faites pas au quotidien ce travail personnel.
Non, j'écris des chansons surtout.
Ah justement, oui, tout à l'heure vous avez dit que vous écriviez pour d'autres parfois. Pour qui par exemple?
J'avais écrit pour Chimène Badi, j'ai écrit pour Grégory Le Marchal,
dont on reparle.
Voilà, j'ai écrit pour Mimi Mati.
C'est vrai?
Voilà, ouais, j'avais écrit.
Ça alors, avoir des droits d'auteur sur Mimi Mati, c'est dégueulasse.
C'est petit, hein.
Pardon.
C'est petit. Hein.
Pour les fans de Julie Zenati, le journal de Julie Z. Ou comment? Moi, je vais vous lire la quatrième de pochette.
J'en ai pour un an.
Comment une toute petite.
C'est parti jusqu'au 30 juin.
Comment une toute petite ado avec une voix encore trop grande pour elle devient une chanteuse et une femme. Et on la retrouve le lundi soir sur W9 pour X Factors. Merci Julie Zenati.
C'est moi, merci beaucoup.